Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Primo auditeur et auditrice, vous faites un excellent choix en écoutant LMK.
J'ai un coussin chien, je déteste les chiens, mais... J'adore les animaux, hein, par ailleurs, mais n'insultez pas dans les commentaires.
Ben, bien sûr que si, Mimi, je fais ce que je veux, d'accord?
Oui.
J'adore.
Je n'ai pas compris ce point dans le podcast.
Le kiff.
Arrête de mettre ma chose préférée et la chose que je déteste le plus dans les mêmes phrases.
Quoi?
Je pensais vraiment pas que ça allait arriver là, putain.
Mais ça va pas de me poser une question pareille.
Bonne année.
Bienvenue dans Laisse-moi kiffer numéro 177. Nous sommes à l'heure où nous enregistrons le 21 janvier, mais effectivement, on peut toujours vous dire bonne année, puisque je crois que l'usage veut qu'on puisse se le dire jusqu'à la fin de janvier. En tout cas, c'est ce que ma mère me disait quand j'envoyais mes cartes de vœux en retard, à l'époque où les gens s'envoyaient encore des cartes de vœux analogiques. Incroyable ou pas? C'est... l'épisode 177 de Laisse-moi kiffer, je l'ai déjà dit, je vais le refaire. Waouh! Je suis Mimi Hegel, rédactrice en chef de mademoiselle.com et hôtesse de ce podcast. Nous sommes dans un épisode classico de Laisse-moi kiffer avec une team de qualité à laquelle je vais poser une question, questionnaire de Proust, qui vient, et je tiens à le dire parce que j'ai envie que vous fassiez plus souvent ça, d'une auditrice, Alicia, qui m'a envoyé un DM pour me donner une idée de question, questionnaire de Proust pour le début de Laisse-moi kiffer, puisque non seulement j'ai peu d'inspi et généralement, ce qui se passe, c'est que 7 minutes avant l'épisode, je fais le tour du bureau avec mes yeux pour chercher un objet qui m'inspire. Genre, quelle gomme êtes-vous? Je sais pas. Quel popcorn êtes-vous? Peut-être, je ne sais pas. Et après, tout le monde râle parce que c'est pas des bonnes questions. Donc, n'hésitez pas à m'en envoyer des meilleures. Et j'ai beaucoup aimé la sienne qui est « Quelle excuse nulle de retard êtes-vous ?» Je peux me lancer, car j'y ai pensé en venant, car j'avais la priorité sur vous, sur l'info de la question. Et j'y ai pensé en venant, puisque je vous en parlerai plus longuement pas dans cet épisode, mais probablement sur Twitch. J'ai emménagé dans un nouvel appartement, blablabla, qui se trouvait dans une résidence, donc genre un grand machin avec plein d'immeubles. Et je suis arrivée en retard au bureau car je me suis perdue dans ma propre résidence en sortant de chez moi. Et j'ai fait des boucles où j'étais là, où est la rue? Je ne comprends pas où s'arrête ce chemin qui finalement fait des tours et n'apparaît pas sur Google Maps. Donc je serai l'excuse, je suis arrivée en retard parce que je me suis perdue dans ma propre résidence. Et le pire, c'est que c'est vrai, car j'ai le pire sens de l'orientation. Et que selon ma psy qui m'a fait un test très scientifique, là où je suis la plus déficiente, c'est pour me repérer dans l'espace. Donc vraiment, je ne sais pas où sont les choses et je ne sais pas où est mon corps.
Comme Thomas Pesquet.
Pareil. Un jour je serai Thomas Pesquet et je pourrai flotter et plus rien n'aura d'importance. En attendant, je me perds dans ma résidence et du coup j'arrive en retard.
Mais tu te perds dans l'espace comme Thomas Pesquet, genre dans l'espace, dans l'univers?
C'était la blague.
Parce que sinon il a vraiment sens de l'espace.
Non, parce que c'est une blague. Pesquet, il s'oriente bien. Je pense qu'il n'est pas nul aussi comme moi en orientation, parce que je pense que pour être pilote, c'est bien d'être bien en orientation.
Tu crois qu'ils font des tests, genre, il le lâche comme ça sans carte et il a pas le droit d'arrêter les gens pour le demander son chemin, genre.
C'est pas Pékin Express par contre. C'est des tests dans des bureaux et toi.
Peut-être qu'ils le font tourner sur lui-même et ils lui disent alors c'est où ta droite, c'est où ta gauche.
Il lui bande les yeux, il lui prend.
C'est toujours la même chose, ta droite et ta gauche de toute façon, quelle que soit.
C'est vrai. Mais il le lâche à genre la part Dieu et lui dit t'as 5 minutes pour choper ton train, vas-y cours.
À la part Dieu.
Oh non, il y a une classe de neige avec des snowboards et des skis sur la route, en obstacle. Que faire?
Horrible.
Voilà, c'est donc l'excuse nulle de retard que je suis, car formidable. Je me perds perpétuellement, y compris à deux rues de chez moi, dans un quartier où j'habite depuis 5 ans. Si je n'ai pas Google Maps et que ce n'est pas la rue que je connais, je vais me perdre et mourir de froid et de faim dans la rue en pleurant. Voilà.
Non.
Mathis, quelle excuse nulle de retard es-tu? Est-ce que c'est mon chien a mangé mes clés?
Ah, c'est une excellente excuse. Non, je trouve que les pires excuses, c'est souvent celles qui sont vraies, parce qu'elles sont plus difficilement avouables qu'une bonne excuse, comme le métro ou je sais pas quoi. Enfin bon, si t'avais pris le métro d'avant, a priori, tu serais à l'heure, donc c'est un peu toujours la même chose.
Déjà, il faut savoir que Mathis, si vous lui dites je suis en retard parce que mon métro il avait du retard, il vous croit pas, il s'en fout. Il dit bah, pour le métro d'avant, qu'est-ce que
ça dépend. Si t'es sur la ligne 8, j'accepte. Qui est une ligne fourbe pour celles et ceux qui ne savent pas, qui globalement dit ah, prochain dans 14 ans. Facilement en heure de pointe.
Prochain train dans 8 décennies.
Non, moi, mon excuse nulle, c'est tout simplement... ça vient d'une discussion que j'ai eue avec ma sœur, où on s'est dit, il y a une excuse qui est pas avouable et qui pourtant nous a mis en retard beaucoup de fois dans notre vie, c'était passer aux toilettes avant de partir.
Ah,
c'est pas du tout
j'étais
avouable.
J'étais sûre, excusez-moi, j'étais en train de ken, qui est une vraie excuse, comme dire.
Alors, ouais, non. Alors,
celle-ci, je l'ai dit, moi.
De
je
quoi
l'ai
ken
dit, mais pas à tout le monde.
J'étais
pas au travail, tu vois, mais j'aurais désolé, j'étais en train de ken.
Je n'ai pas à savoir ces aspects de pourquoi. Est-ce que vraiment, Ivry, c'est compliqué pour venir à Paris? Je ne sais pas.
Ah,
je ne veux pas savoir.
C'est parce que vous êtes des kenneurs du matin, mais attendez, le matin.
Non, mais du soir, tu vois, t'arrives en
pas,
soirée, t'étais censé arriver
oui,
il y a une
voilà.
demi-heure, et t'es là un peu décoiffé en mode, ah, désolé, mon métro, il était en retard. Pas du tout.
Ouais, d'accord. Moi, retard,
tu vas faire un petit quickie, c'est ça la réalité.
Bah, pas si quick, du coup.
Non, 30 minutes, c'est vrai que c'est honorable.
Ça dépend des personnes.
Et de la douche et tout.
Des fois, ça peut être long, 30 minutes.
Sinon, tu te douches pas.
Bon,
bon, que j'arrête.
Mais du coup, voilà, passer aux toilettes peut te mettre en retard et c'est difficile de dire « Ah, pardon. »
C'est vrai.
J'étais sur le trône, tu vois.
C'est vrai. Mais si tu le dis, si tu le formules en « J'étais sur le trône », je pense que ça s'annule. C'est pardonné immédiatement.
Bah genre, j'étais malade, j'étais pas bien ou je sais pas quoi. Tu
voilà.
Vois. C'est pas totalement faux.
On est dans voilà. une métaphore.
Bonsoir.
Aïda.
Moi aussi, je me suis dit, quelle est l'excuse la plus réaliste que je ne dis pas? Enfin, après, il y en a plein que je dis parce que j'aime pas trop mentir et je suis tout le temps en retard. Du coup, souvent, voilà, je dis la vérité.
Honnête dans l'aventure.
Des fois, je dis, désolé, j'ai pas pu faire mieux. Tu vois, souvent, c'est ça.
Désolé,
c'est
c'était genre, mon max.
J'ai fait de mon mieux et j'ai eu 20 minutes de retard, mais vraiment, c'est tout
I
ce que
try.
Je pouvais. Et tu sais, vraiment, je me sens mal, tu vois, je suis là, putain, j'ai tout donné, j'ai eu l'impression de tout faire vite et tout, mais en fait, enfin voilà, c'est juste ma vitesse de croisière le samedi, quoi.
On en place une pour les retardataires chroniques, une team à laquelle j'ai l'impression de m'intégrer petit à petit, ce qui n'est pas forcément une fierté dans ma vie. J'étais très ponctuelle, fut un temps, et là, je suis là, pas du tout, tout le monde sait que je suis tout le temps en quart d'heure en retard. Voilà, si vous êtes dans la team retardataire chronique, sachez que vous êtes représentée dans LMK par Aïda, qui sait bien que parfois tu fais au max, c'était quand même 20 minutes en retard.
Qui fait de son mieux. Mais non, après, j'ai quand même des retards raisonnables, tu vois. Je suis jamais une heure en retard à un truc.
Oui.
J'essaye de rester dans...
T'es pas mon pote à qui je donne vraiment des fausses heures de rendez-vous, parce que je sais que sinon je vais attendre. Le mec, on habitait un quart d'heure à pied, il m'a fait attendre une heure en terrasse. Il m'a dit, je suis en chemin, j'étais là pas du tout.
Je te verrai.
Tu es chez toi. Limite, je vois chez toi de là où je suis. Qu'est-ce qui passe? Voilà. Du coup, lui, je lui donne des fausses heures. Non, mais pas là, je pense.
Oh,
non, ça va. Moi, je respecte le quart d'heure lyonnais, cette grande tradition culturelle
oui.
de l'endroit
il
où je viens.
Il est lyonnais, mon pote. Peut-être qu'il est trop lyonnais.
C'est le quart d'heure lyonnais. C'est poli d'arriver dans un rayon de 0 à 15 minutes après l'heure de rendez-vous. Comme
très
ça,
bien.
Personne ne se met la pression. Mais dans la vraie vie, je pense que la raison pour laquelle je suis le plus souvent en retard, c'est vraiment la raison la plus médiocre du monde. C'est que je perds mes clés chez moi. Et du coup, au moment de partir, je me dis « Ah tiens, je suis à l'heure. Ah non, j'ai perdu mes clés. » Et du coup, après, je passe 20 minutes à faire toutes les poches de tous mes manteaux, tous mes sacs. En général, mon chat dort dessus, car mon chat aime dormir sur mes objets. Donc, je finis par les trouver.
C'est insupportable, dormir sur des clés.
Ah, mais il aime dormir sur tous mes objets. Il est bête.
Il est aussi très imbécile, oui. C'est un vrai facteur.
Mais il est extrêmement fluffy, du coup, je pense qu'il sent rien.
Oh.
Et voilà, je finis par trouver mon trousseau de clés sous mon chat. Et ensuite, je pars avec 15 minutes de retard et j'arrive avec... 15 minutes de politesse de retard. Tout le monde me remercie.
J'ai passé 15 minutes à chercher mes clés sous mon chat, c'est un peu naze. Donc ça marche. Anthony, je sais pas pourquoi j'ai l'impression que t'es soit ponctuel à l'extrême, soit retardataire chronique. J'ai l'impression qu'on a déjà eu une discussion sur le retard et que t'avais genre un avis tranché, mais j'ai aucun souvenir de quel côté t'es. Et
ah
comme
non,
t'es genre intense et déterminé, je suis là, tu peux un peu être les deux, tu vois. Tu peux être le mec qui est tout le temps à l'heure et qui déteste les gens en retard, mais tu peux aussi être le mec qui arrive tout le temps en retard et qui est là, deal with it, je suis Anthony Vincent en fait, j'arrive, donc, j'arrive quand je veux.
Deuxième option.
Ok.
Je n'arrive absolument jamais à l'heure. Enfin,
très bien.
Et encore, le travail, c'est le rare espace où j'arrive relativement à l'heure, enfin pas
bah,
trop
tu vois, t'es pas retardataire chronique dans ma tête et je suis quand même un peu ta chef, donc c'est que c'est pas si grave, mais je pense que le télétravail aide aussi.
Oui.
C'est plus facile d'être à l'heure quand t'es chez toi.
Clairement. Et c'est pour ça que je viens plutôt l'après-midi et rarement le matin, parce que je suis incapable d'être à l'heure le matin, particulièrement.
C'est...
Et c'est même pas parce que je perds mes clés sous mon chat, parce que je n'ai pas de chat, hélas. Envoyez-moi des photos de vos chats en DM, s'il vous plaît.
Oh, je vais t'en envoyer 12 000.
Ah bah oui, avec grand plaisir, j'adore ça. Mais c'est vraiment parce qu'en fait, je sais jamais quoi mettre. Enfin, c'est hyper cliché, mais je m'habille vraiment...
Mon excuse, c'est que je savais pas quoi faire.
Non, mais c'est qu'en fait, genre, je me prépare et mon cerveau ne se rend compte qu'il doit partir qu'au moment où c'est l'heure où je devrais être au rendez-vous. Donc, si tu dois être quelque part à 14h, je vais réaliser à 13h59 que je devrais déjà être partie. de chez moi.
L'aspect temps de trajet n'est pas pris en compte
non,
dans la préparation.
Non, j'arrive pas. Et en plus, genre, devant ma porte où je me dis « Ah non, je devrais partir !» Et ben là, je me dis « Et si je mettais ça ?» Et en fait, du coup, je change de tenue au dernier moment. Genre, au départ, je devais pas du tout mettre ce que je porte actuellement.
Alors, il faut le dire. Aujourd'hui, Anthony description, ouais. porte un col... Attends, je vais essayer de... un col roulé ivoire ou crème, comme vous voulez.
Ivoire.
Sur lequel il a passé, en toute simplicité pour un vendredi après-midi au bureau, une veste d'escrime blanche, fermée, magnifique. C'est, on dirait, le gars, il vit dans le turfu, mais genre le turfu où tout le monde est bien sapé de façon minimaliste
ouais,
et slick, tu vois. Donc, un turfu un peu Apple Core. Du coup, voilà, Anthony, pour venir au travail cet après-midi, peut-être que tu arrives en retard parce qu'au dernier moment, tu t'es dit, mais je vais mettre ma veste d'escrime.
Précisément, c'est exactement ce qui s'est passé.
Mais est-ce que tu fais de l'escrime ?
Je ne fais pas du tout d'escrime. C'est vraiment, genre, donc j'ai signé ce col roulé Phoebe Philo, époque, quand elle était chez Céline. Et cette veste d'escrime,
anyway,
qui est une vraie veste d'escrime, effectivement, qui est effectivement rembourrée et surtout qui a une attache à l'entrejambe parce que c'est une forme de body, en fait.
Ça a l'air trop bien.
Et donc, il fallait que je me cherche complètement pour l'enfiler. Et je l'ai chiné sur Vinted, évidemment. Qu'est-ce que j'allais vous dire ? Bah oui, donc au dernier moment, j'ai eu une illumination. Je me suis dit, et si je mettais une veste d'escrime ? Et du coup, ça m'a emballé dans une histoire où je devais trouver un truc qui allait avec et tout.
Bah, c'est ça,
compliqué.
C'est que si tu changes une pièce, il faut que tout suive.
Bah oui,
suive,
bah, rien
quoi.
Ne va plus. Et donc voilà, mon excuse, c'est désolé, je me suis changé au dernier moment. Et généralement, les gens m'excusent. Et
évidemment.
Voilà.
Car quand on voit la qualité des looks, on est là, ça vaut bien un peu de temps quand même, tout ce travail.
Et puis comme t'es journaliste mode, ça fait très conscience professionnelle, tu vois.
Oui, finalement, c'est un retard pour une raison pro, effectivement. Mais je suis aussi très souvent en retard parce que j'ai aucun sens d'orientation et que je me perds dans ma rue aussi.
Ah !
Et je compatis totalement.
Très
et...
bien.
Et je crois que je suis dyspraxique, mais c'est une autre histoire.
Tout à fait, nous en parlerons dans une autre question de Laisse-moi kiffer. Merci beaucoup à tous et toutes d'avoir assumé ces côtés un petit peu nazes des fois de l'existence et le retard chronique. Écoutez, ça arrive à des gens. Très bien. C'est l'heure de passer aux commentaires. Mathis, est-ce que tu as un commentaire ?
Oui, j'ai un commentaire qu'on avait reçu il y a quelques semaines maintenant, je crois. Plus précisément, le 13 janvier. Donc en fait, il n'y a pas si longtemps que ça. Lisa qui nous avait dit « Et coucou LMK !» « Oh my god, qu'est-ce que vous foutez dans le Flixbus ?» Donc là, je marque une petite pause en dedans. Pardon. En fait, j'explique. En tant que bonne nouvelle lilloise, je me dois d'aller à Bruxelles au moins une fois dans ma vie. Étant bien sûr une étudiante fauchée, je prends le Flixbus. Donc aujourd'hui, on est jeudi, jour de sortie du 175 bis. 175 bis parce que...
Ah, il y a des gens qui ont cramé que j'ai dit deux fois l'épisode 175. Bon.
Combien de fois c'était l'épisode 175 ? Je propose qu'à chaque
trop,
fois, au début, dans la tour, on dit 175. Dans le Allez. Doute. Dans le doute. Je l'écoute en me préparant tranquillement, comme tous les jeudis matins, avec LMK dans ma tête. Bref, je rejoins mes copines qui montent dans le bus, galère à me connecter au Wi-Fi, et là, qui je vois apparaître ? Bon, bah voilà, elle l'avait dit au début, donc il n'y a pas non plus un suspense démesuré. vos petites têtes sur la page d'accueil.
Tout à fait.
Brefouille, je me suis retrouvé mindfucké. Ouais, brefouille, j'adore. Je me suis retrouvé mindfucké en mode ils ont accès à mon Spotify. Eh bien non, car tout le monde autour de moi a votre petite tête sur l'écran.
Quoi ?
Bref, c'est dingue. Tout ça pour dire quasiment rien. Plein de bisous et n'oubliez
donc
pas de vous toucher
sur les écrans de l'app Flixbus. Il y avait Laisse-moi kiffer mise en avant.
Exactement.
Mais incroyable, mais wow. Il fallait prendre une photo.
Elle
merci
a pris
beaucoup
une
pour
photo,
ce
mais c'est un podcast.
Il y a une photo.
Incroyable.
Est-ce que c'est une anecdote de star ?
Est-ce que tu viens de me dire elle a pris une photo mais c'est un podcast, genre je sais pas qu'on peut pas montrer des photos dans Laisse-moi kiffer. L'homme est désagréable. La photo sera en story sur le compte de Laisse-moi kiffer et c'est Mathis qui va le faire parce
non,
que c'est son travail.
Bon, elle précise à la fin et n'oubliez pas de vous toucher le kikif petit ange parti trop tôt cette phrase. Voilà.
Elle est vraiment restée longtemps. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est partie trop tôt ? Je ne sais pas, mais elle est partie en tout cas.
Je ne sais pas.
Merci pour cet incroyable message, je savais
c'est
pas,
fou.
C'est trop bien. Écoutez,
mais c'est dingue.
On est ravis. Aïda, as-tu un commentaire ?
Oui, j'ai absolument un commentaire que je vais retrouver dans une seconde. Alors, c'est un commentaire de Yuna. Yuna qui me raconte qu'elle est en train de rattraper quelques épisodes d'LMK en voiture. Et elle écoute l'épisode où je parle de ma malédiction, qui est que chaque fois que je tourne la tête, il y a des pigeons en train de ken à côté de moi.
Les pigeons, ça ken ?
Bah, apparemment que quand je suis là...
Ça se reproduit.
Quand un pigeon et une pigeonne s'aiment beaucoup, ils font des trucs chelous qui mettent
okay.
un peu mal à l'aise.
Assis-toi, Anthony, il faut qu'on t'explique comment ça se reproduit.
Terrifiant et extrêmement désagréable pour moi, parce qu'en plus, j'ai super peur des pigeons. Enfin bref, c'est une malédiction horrible qui me poursuit depuis que je suis arrivée à Paris, comme si la nature m'envoyait un message. Et donc, Yuna me dit... donc elle est dans la voiture en train d'écouter LMK, et elle me dit « Je t'entends parler de l'effet emoji qui a très chaud. Effet... hot que tu fais aux pigeons et genre deux minutes après je vois deux pigeons ken pour la première fois de ma vie mes DM
J'adore tes plaisir. DM entre ça et les éléphants de mer qui tiennent. T'as un truc avec les animaux qui copulent.
Ah non, mais c'est terrible comme malédiction. Elle me dit, d'après Alix, le mois des coïncidences, c'est octobre, donc ça ne peut pas être une coïncidence. La seule explication, c'est que ton aura passe par les autoradios, c'est officiel. Si vous voulez faire se reproduire des pigeons, ma foi, n'hésitez pas à blaster, mais laisse-moi kiffer très fort.
Si ton super pouvoir nul, c'est que dès qu'on t'entend parler, on se retrouve à proximité d'animaux qui copulent. Et qu'il y a tout un Flixbus qui t'entend parler, parce que t'as la bouche dans Flixbus, t'as toutes les vaches, genre le bus, il passe devant, qui vont se mettre à ken.
Ah, le bus devient un sex safari.
Un grand pouvoir implique de grandes mais responsabilités.
Ça voudrait dire que la plupart des vaches seraient lesbiennes.
Et pourquoi pas?
Mais c'est rare.
Peut-être qu'elles sont pans. Peut-être qu'elles ne voient pas les genres et seulement les personnes vaches qu'elles désirent ou non, en tout consentement.
Waouh, c'est beau ce que tu dis, mais...
Incroyable, ce podcast est si inclusif.
En tout cas, merci Yuna de m'avoir envoyé ce message. Je suis terrifiée par l'information qui m'est donnée. Surtout quand j'ai lu, je t'entends parler de l'effet hot que tu fais aux pigeons. J'ai eu l'impression que les pigeons avaient envie de me ken moi, ce qui m'a terrifiée.
Je pense
que
les pigeons te harcèlent de rue un peu. Hein. C'est quoi un peu des exhibos, ils te harcèlent un peu.
Je pense. Hein.
Sur la ouais, regarde.
En tout cas, il n'y a rien de consenti dans ce qui se passe, c'est juste horrible quoi.
Mais surtout à Paris où t'as pas envie de les voir ken, déjà t'as pas envie de les voir marcher parce qu'ils peuvent pas.
Et puis il y en a partout, Mathis, est-ce que tu te rends compte de ma vie ou pas?
Ah, mais ils c'est sont atroce. Partout. Non, et puis il faut le dire, à Paris, ils sont vraiment plus moches que la moyenne. Vraiment, ils se déplacent avec une jambe
en
bois.
On est sur des animaux en fin de vie dès la naissance.
Ah, mais c'est horrible. C'est horrible. Le pigeon, il vole pas, il marche pas, il rampe.
Vraiment. Arrêtez de parler des pigeons, ça me dégoûte.
Merci Aïda pour ce commentaire. Plein de pigeons, désolé pour les pigeons phobes d'entre vous qui, comme Aïda, subissent ce moment. Anthony, as-tu un commentaire?
Hélas, non. Mes DM sont seuls, estelés.
Envoyez voilà. Des DM à Anthony. Et en attendant, je vais compenser, car je n'ai pas un commentaire, j'ai plusieurs commentaires. Car,
wow, quel resta.
Grâce incroyable. Au pouvoir de Laisse-moi kiffer et à l'ouverture d'esprit et à la curiosité sans faille de nos LM Crado, je suis devenue influenceuse blette, car plein de gens m'ont répondu, parce que mon kiff il y a une semaine ou deux, c'était découvrir des nouveaux légumes, et spécifiquement j'ai découvert les blettes, et du coup j'ai parlé des blettes et j'ai mis des stories sur Instagram. Et donc j'ai un éventail de commentaires autour des blettes, de DM autour des blettes. On commence par Morgane, qui m'a envoyé « Félicitations, tu es maintenant influenceuse blette, puisqu'elle a acheté une blette à cause de moi. » Enfin, grâce à moi. Et ensuite, elle m'a envoyé son plat. Sachez que j'ai enregistré cet épisode, il est 16h, j'ai pas déjeuné. Donc je vais passer un très mauvais moment, car tout a l'air très bon. Elle m'a envoyé son plat, je cite, « Des blettes revenues à la poêle avec du jus de citron et du paprika, agrémentées de pâtes fraîches faites maison, de crème fraîche et de comté. Meilleur déj pour fêter la fin du chômage avec un CDI dans mon domaine. » Donc
bravo,
en plus,
la classe.
Bravo à Morgane qui fête la fin de son chômage avec des pâtes
bravo.
Aux blettes. Je pense qu'il y a deux semaines, j'aurais dit c'est le plat le moins bandant de France pour fêter un truc cool, mais en fait non, ça a l'air
non, délicieux. Et du fromage, tout va bien.
Y a des pâtes faites maison.
Il y a du comté, c'est vrai. Des pâtes fraîches faites maison.
Et du fromage.
On a aussi Leïla qui me dit « Coucou Mimi, je suis en train d'écouter LMK, tu expliques que tu viens de découvrir la blette. C'est un légume très cultivé d'où je viens, l'Aveyron, car il est au cœur d'une de nos spécialités régionales. » Et là, attention, c'est le mot le plus mignon du monde. « Le farceau, comme une farce mais en petit. C'est un petit beignet ou une galette aux herbes et ou à la viande. On les prépare à la maison pour l'apéro ou l'entrée. On le retrouve beaucoup dans les marchés de pays et de producteurs l'été. C'est délicieux, pas besoin de four, c'est bien gras mais on aime. » Donc je vais clairement faire des farceaux à la blette.
C'est trop bon, j'en ai mangé en Aveyron cet été et c'était vachement bien. L'été d'avant, le temps n'existe plus, je sais plus. C'est vachement bien.
On me dit le risotto. Alors pardon, Tony Hung dit je rebondis sur ton kiff du risotto aux blettes que j'ai tenté en version végétarienne avec la protéine de soja, c'était très très bon. Du coup l'astuce, je te donne l'astuce que m'a donné ma coloc pour éviter de tremper les pâtes feuilletées avec la garniture qui crache son jus. Moi j'avais dit que mon astuce c'est de mettre une crêpe sur ta pâte feuilletée et après ta garniture parce que sinon ta garniture elle trempe ta pâte feuilletée. J'espère que vous aimez
technique.
Ce podcast de la cuisine vraiment, j'espère que vous passez un bon moment. C'est peut-être très long, je ne sais pas. Bref, quand tu fais une pâte feuilletée et que tu veux genre faire un feuilleté aux champignons. En fait, les champignons, ça rend de l'eau de ouf. Et du coup, bah, la pâte feuilletée, elle est détrempée et c'est chiant, c'est pas croustillant. Donc moi, ma technique, c'est tu mets une crêpe entre ta garniture et ta pâte. Comme ça, ça protège et ça trempe pas la pâte.
Mais une crêpe.
Une crêpe bretonne, une crêpe, rien quoi.
Ok.
Parce que du coup, ça se sent pas beaucoup en termes de goût, mais ça imperméabilise, ça fait un isolant quoi. Et donc Tony me dit que sa coloc saupoudre de la semoule sur la pâte feuilletée juste avant, après et avant y avoir mis la garniture. Ça donne plus de consistance au plat tout en gardant un goût suffisamment neutre pour ne pas altérer le goût. Incroyable.
Genre de la semoule pas cuite?
Ouais.
Je
Mais
pense.
Du coup, elle va cuire en absorbant
ça suffit
le jus.
Bah, avec les trucs qui rentrent de l'eau et tout
ça. Pas l'impression de bouffer du sable, ça va?
Bah, la semoule, de toute façon, tu mets juste de l'eau.
C'est vrai.
Et j'ai aussi un... Non, mais je vais pas le faire. J'avais un audio sur la blette, mais vraiment, c'est un long moment. Mais merci d'avoir acheté des blettes grâce à moi. Je suis
la nouvelle rubrique de l'intro.
Vraiment, dans la micro-influenceuse vie, je pensais pas être dans la team blette, mais je suis ravie. Merci de m'avoir envoyé vos recettes à base de blettes. J'ai hâte de tout faire, car tout a l'air très bon. Et j'apprends donc que c'est vraiment une spécialité dans beaucoup de localités que je ne connaissais pas jusqu'en 2022.
Est-ce que tu pourras tout poster sur Instagram et faire un hashtag genre Living My Blette Life ou un truc comme ça?
Living My Blette Life, ça part en prod.
Tu viens de l'inventer, hein?
Pardon?
Tu viens de l'inventer?
Bien sûr.
C'est pas blette d'y avoir pensé.
Ah!
Voilà, super.
Ok, on va finir cette intro qui est déjà un peu longue car j'ai beaucoup parlé de blette avec soit un message boubou, soit une anecdote de star. Vous préférez quoi?
L'anecdote est drôle.
Ok.
En fait, les deux étaient des clins d'œil à Aïda, donc j'ai du mal à m'en séparer.
Mais Aïda revient bientôt, pas la semaine prochaine, celle d'après peut-être, donc au pire, on écoulera l'autre. Tu veux message boubou ou anecdote de star? Les deux sont sur toi, donc.
J'ai trop peur de l'anecdote de star. Est-ce que c'est quelqu'un qui m'a vu dans la 14 en jogging avec les cheveux sales?
À côté d'un couple de pigeons en train de baiser, là.
J'ai l'image d'Aïda qui se balade avec une espèce de flûte à bec, tu sais, un costume ridicule et tous les animaux en train de forniquer à droite à gauche. Blanche-Neige qui en... Wesh,
alors,
c'est mon talent normalement.
Faites des fanards. Ouais, c'est tout ce qu'on veut. Faites des fanards de cette vision. Tu veux anecdote de star
Je sais pas, on peut voter. Non, moi je pense que la dernière fois que j'ai fait LMK il y a pas très longtemps, on a écouté un message boubou. Peut-être qu'on peut écouter l'anecdote de star.
Allez, on change.
Allez, on fait un sevrage.
Ok, c'est Eva.
Car c'est Dry January.
C'est Dry January.
C'est vrai, c'est Dry January. Salut les LM Crado, j'ai une anecbof qui, je pense, elle écrit pas anecbof mais anecbof, qui je pense fera plaisir à Aïda. Récemment devenue bordelaise grâce à mes études, j'attendais patiemment le moment de croiser Philippe Poutou, considéré comme un demi-dieu dans le 33.
Sex symbol.
Mais, de ouf. Mais je pensais vraiment pas que ce serait à une soirée techno en dansant devant Ascendant Vierge. Il était... C'est un groupe Ascendant Vierge,
oui,
je sais pas.
Oui, c'est un groupe.
Il était derrière nous, assis sur des sièges, un pur délire. Et juste avant, on venait de voir Lalaïs. Sacrée soirée.
Mais c'est la meilleure soirée du monde.
J'ai une deuxième anecdote beauf, bien plus beauf et beaucoup plus courte. Mon prof de cirque à la fac, c'est le frère de Jérémy Frérot.
C'est qui Jérémy Frérot?
Frérot de la Vega, tu vois pas? En fait, c'est pas deux frères. C'est un gars qui s'appelle Jérémy Frérot et un gars qui s'appelle, je sais plus quoi, de
Machin
la Vega.
Machin de la Vega, ouais.
Ok.
Et il y en a un des deux, bah, bref. Et maintenant, ils sont séparés, ils sont en solo. Du coup, Philippe Poutou, soirée techno, juste après la Laïs, franchement.
Ça a l'air incroyable, ça me donne envie d'aller vivre à Bordeaux.
Pareil, mais je crois qu'ils sont de droite à Bordeaux.
Je viens vraiment dire, j'adore.
Écoute, il y a Philippe Poutou maintenant, donc.
Désolé les Bordelais. Mais parce qu'attends, elle dit le 33, le 33, c'est pas Montpellier? Bon, bref. Très bien. Philippe Poutou, pardon.
Merveilleuse anecdote de star, j'ai envie de vivre ta vie. La personne grave qui nous l'a envoyé, j'ai envie d'être toi. Voilà,
j'espère que quand on refera des soirées, un jour il y aura Philippe Poutou qui écoutera la soirée Mademoiselle. Bah bien sûr, on
mais
met sur liste.
Mais est-ce que Poutou a croisé la Ace aussi du coup?
Mais ils sont amis, c'est pour ça qu'il était invité au premier rang. C'est parce que la Ace, je sais pas, je suis en train de faire une fanfic dans ma tête.
Ah non.
Bientôt sur Wattpad.
Mon dieu, non.
Les meilleurs amis, tu vois, il leur manque que moi pour leur trio.
Un trouble donc.
Il aurait dû lâcher un slam comme Taubira.
Un jour peut-être. Ok. C'est la fin de cette intro de Laisse-moi kiffer où nous avons parlé de blettes, mais aussi de Philippe Poutou et de pigeons qui baisent. C'est donc déjà un excellent épisode. C'est l'heure du jingle et juste après, c'est l'heure des kiffs. Jingle.
Jingle, oui, allez.
Oui, c'est l'heure des kiffs, vous m'entendez bien. Pas la peine que je répète ce joli petit refrain. Oublie les digressions et autres discussions, car on rentre dans le vif de l'action.
Merci, Valentin.
J'avais plus quoi faire, j'ai failli dire bonjour, j'étais en panique.
Appelle podcast 5 étoiles.
Mademoiselle.com.
Mathis,
oui.
Quel est ton kiff?
Alors, mon kiff, pour une fois, n'est pas un élément culturel, car j'ai décidé d'être idiot.
Ça va, tu as parlé une fois d'un livre, Mathis, ce n'est pas toujours culturel.
Mais je suis le Jean-François Bunel de cette émission, tout le monde le sait. Le capital génétique des cheveux en moins. Voilà, je ne sais plus parler, c'est terrible.
Un épisode laborieux en termes d'articulation.
Absolument.
Pour moi aussi. Désolé, cher LM Crado, on espère qu'on compensera en étant hilarant. Voilà.
Je voulais tout simplement revenir sur un choix que j'ai fait il y a quelques mois. et qui a été une très bonne décision et qui est vraiment une mini décision de rien du tout, mais juste j'y repense souvent en me disant c'était quand même chouette. Donc il faut savoir, contextualisation, que moi je suis parti très très tôt de chez mes parents, comme beaucoup de gens en province, c'est-à-dire qu'à 17 ans je vivais dans mon premier appart, etc.
Pareil.
Et très vite j'ai taffé l'été, donc je me suis pas amusé à revenir très souvent, et les rares fois où j'ai rejoint mes parents dans leurs vacances, bah voilà, je passais deux jours et puis en général j'allais ailleurs, enfin j'avais toujours un autre truc à faire. Donc voilà, les vacances en famille en tout cas c'est un truc qui est un peu loin dans ma tête. Et ma mère m'a proposé, j'avais donc 15 jours de battement entre la fin de mon stage et le début de mon alternance chez Mademoiselle. Elle m'a proposé, elle me dit, est-ce que ça te tente de faire 7 jours? Alors ton père est en vacances, mais et pas en vacances, pardon, mais moi je le suis. Et est-ce que ça te tente qu'on se fasse 2 jours tous les deux, mobilhome? Je me suis dit, tout seul avec ma mère, mais c'est un film de Xavier Dolan ou des vacances, tu vois? Et bah les deux finalement, parce que ça a été super intéressant. Et ça paraît absurde comme ça, mais en vrai, je trouve ça extrêmement chouette parce que ça m'a permis, comme j'ai grandi cette fois, de passer du temps vraiment de qualité avec ma mère qui est pas genre ancrée dans son quotidien, surtout que ma mère est genre ultra maniaque, donc quand je rentre à la maison globalement elle est toujours en train de lessiver un truc à droite à gauche, tu vois, enfin c'est quand même quelqu'un qui passe la raclette après chaque douche.
Wow.
Voilà, on est là-dessus.
Maintenant, j'ai une baignoire avec un truc en verre et mon mec, il m'a dit, on va acheter une raclette et comme ça, on la passe après chaque douche. Je lui ai dit, pas après chaque douche. Hein. C'est absolument pas quelque chose qui va arriver dans ma vie. Régulièrement, voilà. Oui. Pas.
Bah, tout le monde se plie au jeu chez moi à passer la raclette, puis la lavette microfibre, puis une autre lavette pour essuyer.
D'accord, ouais, non, pas ma vie.
Très on bien. Est là-dessus,
voilà.
Voilà,
une personne et donc
ça,
d'habitude.
Voilà, et ça fait du bien de voir ma mère dans un contexte plus chill, mais accessoirement de la voir aussi, non pas en tant que mère, non pas en tant qu'épouse, mais vraiment en tant que personne, genre à part entière, toute seule, qui fait ses propres choix, qui dit, on fait quoi aujourd'hui, quoi. Et je trouvais ça trop chouette de vraiment passer ce temps avec elle et vraiment apprendre à la connaître. Et elle m'a parlé de choses dont elle m'avait jamais parlé avant et qui sont super intéressantes. Et on n'a pas du tout genre le même quotidien, on n'a pas du tout les mêmes aspirations. Enfin, mes parents, c'est vraiment genre, ils se sont rencontrés à 17 ans, ils ont un petit pavillon, ils ont un scénic et ils sont très heureux là-dedans et c'est parfait. Mais c'est littéralement l'opposé de mes objectifs de vie. Et en fait, ça aide de prendre le temps de se parler parce qu'on se comprend en fait et c'est chouette. Et ça m'a permis aussi de revenir sur un truc, et c'est aussi pour ça que je parle de ce kiff particulièrement, revenir sur mon coming out et revenir sur la réaction qu'elle avait eue à l'époque. Parce qu'on parle toujours de cette grosse conversation de « ah là là, on doit dire le truc ».
Pas
quoi.
Maman.
Voilà, c'est ça. Et moi, ça s'était passé bizarrement, mais en gros, j'en avais un peu voulu parce qu'elle avait lâché 2-3 trucs cons de type « mais tu comprends, c'est tellement dur pour un père de comprendre que son fils peut être gay » ou « du coup bi » en l'occurrence. Ce à quoi je lui avais répondu « va chier » globalement.
Une réponse valable.
Ouais, j'étais un peu en mode « s'il a un problème avec ça, c'est son problème, il gérera dans son coin comme un grand et puis il reviendra quand il sera prêt et mature. »
Quand il sera calmé.
C'est exactement ça. Et du coup, on s'était un peu embrouillé à l'époque et on n'est jamais trop revenu dessus. Et en fait, je lui en ai reparlé en marchant les pieds dans l'eau, dans la mer. On était
vraiment
dans le Cotentin.
En plus,
c'était des vacances incroyables parce que c'était en Basse-Normandie, donc il faisait un temps genre médiocre tout le long. Mais chaque soir, je tenais à aller me baigner malgré les 4 degrés dans l'eau et dans l'air globalement. Et tout le monde me regardait en mode waouh, quelle force. Et moi, j'étais vraiment
pneumonie.
Oui.
Putain, les Normands, c'est solide.
Il y a plus d'algues que d'eau en plus dans cette.
Je déteste les algues.
C'est la Manche, c'est comme ça.
Ah, mon corps vient de m'envoyer la sensation de quand une algue te touche sous l'eau et j'ai eu envie de sauter par la fenêtre. Je me découvre un nouveau trigger nul
de
ah, les algues. Non, très bien, pardon, comme les pigeons. Donc,
donc voilà, donc on était en train de s'empêtrer dans les algues, si on enlève un peu l'image romancée de marcher les pieds dans l'eau. Et ouais, je me souviens d'avoir eu cette discussion, elle était vraiment. Ah ouais, je me rappelle pas du tout. Et c'est. Cool de constater du coup que ses proches ont grandi sur des sujets, donc elle se rappelait pas très bien de sa réaction, donc on en a reparlé, elle s'en est grave voulu, elle s'est excusée et on a vraiment pris le temps d'en reparler aujourd'hui. Et je me rends compte du coup du parcours que ma mère a fait sur les sujets, les thématiques LGBTQIA au-delà de mon propre vécu, même à parler de transidentité. Il y a la cousine d'un cousin qui a fait sa transition récemment et du coup au début, quand elle en parlait, c'était ultra maladroit et j'étais en mode non, mais c'est pas grave. En gros, je t'explique pourquoi on utilise tel mot et pas tel mot. Et je trouve ça très beau de voir ma mère grandir vraiment s'éveiller sur certaines thématiques auxquelles elle n'était pas du tout sensibilisée dans son milieu de base. Et ouais, tout simplement, se construire une pensée sur certains sujets, vraiment la voir évoluer. Et moi, je fais partie de ces gens optimistes qui pensent que les gens changent et que les gens peuvent changer quand on leur en donne l'opportunité et qu'on leur laisse le temps. Et je trouve que ma mère, c'est un bel exemple de ça. Et je sais qu'elle écoutera probablement pas ce podcast, mais...
La mienne non plus écoute pas mes podcasts. Hein.
Non, très clairement. Mais en tout cas, voilà, c'était un très bon souvenir. Et du coup, mon kiff, c'est de parfois laisser le temps de découvrir un proche, genre à la fois. Et vraiment prendre le temps de... Bah, de prendre cette personne telle qu'elle est, en fait, tout simplement. Et voilà, et c'est beau. Et quand vous avez une famille avec laquelle ça fonctionne, parce que c'est ça aussi, hein, c'est que j'ai un vrai privilège là-dessus, bah, c'est chouette de le faire. Et c'est chouette de le faire aussi quand il y a eu un conflit et parfois que le temps est passé par là. Voilà. Et un petit peu de patience, ça n'a jamais tué personne. Les algues aussi, peut-être. On sait pas.
Ah, les algues ont tué tellement de gens. Mais voilà. C'est ouf parce que des fois, tu te rends compte qu'un truc est important pour toi parce que quelqu'un d'autre en parle comme d'un truc pas important. Et il y a 2 ans, juste avant le Covid, le Noël d'avant le Covid, donc Noël 2019, je me suis dit, ok, projet 2020, je vais passer du temps solo avec ma mère, genre je vais l'inviter à passer un week-end chez moi à Paris. On va parler comme des adultes, on va parler de nos vies, de quelle personne elle est et tout, et on va peut-être rouvrir quelques chapitres, voilà, de conflits jamais débriefés, de trucs d'ado où on s'était engueulé comme du poisson pourri, et en fait on n'en a jamais reparlé parce que, bah, on s'aime, is ok, mais on n'a jamais non plus débriefé ce qu'on s'était dit. Et ça m'a terrifiée comme perspective, vraiment, j'étais là... Ok, il faut que je le fasse, c'est important de le faire, mais vraiment, j'étais en mode mes 2 jours en tête à tête avec ma daronne, ça me... Alors qu'elle est cool, ma daronne, on s'entend bien, tu vois. Et j'étais là, ça me fait hyper stresser, j'en ai parlé avec ma psy, j'en ai parlé à mes 2 meilleures amies, qui m'avaient fait un planning avec des activités en mode comme ça, vous n'êtes pas obligé d'être en tête à tête tout le temps, parce que sinon, ça me faisait stresser. Et après, il y a eu le Covid, donc en plus, finalement, ça s'est pas fait. Et toi, t'en parles en mode, ouais, je passe un week-end en tête à tête avec ma daronne, on a parlé des vieux conflits, c'était hyper frais, et je suis là, c'est trop bien d'y aller sans... Enfin, moi, ça me terrorise, et t'as l'air d'y être allé en mode, ça va peut-être être bizarre, mais...
Après...
Pas terrifié, quoi.
En vrai, après, il y a plusieurs choses qui font que c'est facile et qui font que j'en ai envie. C'est que déjà, j'ai perdu énormément de gens de ma famille, de maladies, de vieillesse, de plein de trucs en un temps assez rapproché. Et tout ça du côté de ma mère. Donc, elle a perdu, en gros, donc elle avait perdu un premier frère d'un suicide à peu près au moment de ma naissance. Et en fait, dans les 5 dernières années, elle a perdu ses 2 parents et son frère. Donc,
ah ouais.
Donc, beaucoup. Okay. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui est très attaché à l'idée de... Bah, de prendre le temps de dire les choses aux gens, de vraiment dire aux gens qu'on les aime parce que ils ne sont plus là. Enfin, c'est vraiment à la fois des poncifs et en même temps, bah, quand t'es confronté à globalement la réalité de ce que c'est de perdre quelqu'un, bah, il y a un peu une urgence aussi d'être avec ses proches, une urgence d'être ensemble. Putain, mais je suis qui? Je suis Taubira ou quoi? Urgence d'être ensemble.
Urgence d'être ensemble.
Et voilà, je trouvais ça assez bien de se poser ensemble et de prendre ce temps-là, mais c'est aussi parce que j'ai une mère qui communique énormément, qui est quelqu'un qui se remet énormément en question.
Ah oui, ce qui est moins la mienne, je t'aime, voilà. Maman, je sais que tu n'écoutes pas, laisse-moi kiffer. Je dis pas que tu ne sais pas te remettre en question, mais on est sur un caractère méditerranéen chez la personne qui parfois s'enflamme vite et n'aime pas avoir tort, voilà, c'est possible.
Ça, ouais, ça c'est encore autre chose.
Les chiens font pas des charges, je vais rien dire.
Mais voilà, si vous en avez l'opportunité, si vous avez des proches qui vous respectent aussi, parce que c'est ça aussi qui est en jeu. Hein.
Oui, l'idée, c'est pas de se forcer. Si c'est des... Enfin, des fois, on a des proches, c'est des cons, quoi. C'est la vie, quoi. On n'est pas obligé de traîner avec. Mais
puis ça peut être bien que des amis aussi. Enfin, avec des gens, en fait, globalement, avec lesquels vous avez grandi. Et quand vous êtes devenu quelqu'un d'autre quelques années plus tard. Parce que bon, voilà, moi, je suis dans le début de la vingtaine, donc forcément, c'est des années où il s'est passé plein de choses et je suis pas
tu
du tout la même personne qu'à 19 ans.
Tu vas devenir quelqu'un d'autre tous les ans. Hein. Soit prêt à être quelqu'un d'autre tout le temps, c'est le game de la vingtaine.
Absolument.
J'adore dire ça maintenant que j'ai 30 ans et 2 mois. Je veux dire, oui, la vingtaine, je me souviens, fut un temps. Vous arrivez à passer du temps en tête à tête avec vos parents, vous? C'est bizarre ou c'est pas bizarre?
Bah, moi, je suis enfant unique et j'ai grandi avec une maman célibataire. Donc
la tête à tête, c'est pas bizarre.
C'est la base normale, quoi, de mon existence perso. Le mode normal, c'est plutôt d'être toute seule avec ma mère.
Mais est-ce que tu l'as vu hors d'un contexte quotidien?
Ouais, il y a ce truc aussi de partir en vacances en tête à tête ou en week-end en tête à tête avec un parent, ouais. Tu vois, qui est pas forcément quelque chose qu'on fait beaucoup à l'âge adulte. Genre, je passe plus beaucoup de vacances avec mes parents, je vais chez eux pour Noël, tu vois, mais on va pas en vacances ailleurs ensemble, quoi.
Ouais, bah c'est vrai que c'est un truc qu'en tant qu'adulte, je fais moins. Quand j'étais ado, on le faisait pas mal de partir en vacances toutes les deux. Et c'est vrai que ça fait partie des souvenirs que moi, je chéris le plus avec elle, tu vois. Enfin, un jour, on a fait un Lyon-Bruxelles en caisse où c'était n'importe quoi. Et c'était très drôle, on faisait des arrêts n'importe où et tout. Maintenant, je le fais moins. Et c'est vrai que c'est dommage. Ça fait partie des choses que j'aimerais bien avoir l'occasion de faire un peu plus. Mais il faudrait 50 jours de congés par an.
Tout à fait, plus de congés, c'est bien ça sûr. Qu'on veut.
Et à gauche. Non, mais ouais, je pense que c'est effectivement hyper cool d'avoir l'occasion de passer de l'espèce de temps de qualité en tête à tête avec certaines personnes de sa famille ou dont ses proches de manière générale. Et notamment, moi, je sais qu'avec ma mère, c'est un truc qu'on a vachement essayé de faire toute ma vie de quand je vivais chez elle. Notamment parce que ça peut être un peu intense aussi, la vie de, d'enfant unique, parent seul.
Ouais, de ouf.
Tu vois, l'adolescence, c'était quand même bien, bien compliqué. Du coup, on avait cette habitude de se sortir de ces cadres-là pour essayer de passer du temps ensemble en vacances, en rando, en truc. Et c'est vrai que maintenant, je le fais plus. J'y pense pendant qu'on en discute, là. Et je me dis, allez, ça fait chier. Quand on sort de ce podcast, j'envoie un texto à ma mère et je lui dis, vas-y, quand est-ce que tu viens à Paris? Je vire mon mec et mon chat de l'appartement.
Au top. Ah, le chat aussi.
Tête à tête, Mimi. Le chat, c'est une distraction.
Ok, tête à tête, zéro autre personne, même celles qui sont très bêtes, mais très choues.
Celles qui font aucun bruit. Ouais, voilà, projet.
Très bien, tu vois.
Merci, Mathis.
Voilà.
Tu donnes des envies à des gens de renouer le lien.
Bah, redites-moi en commentaire si vous l'avez fait avec des proches et si ça s'est bien ou mal passé, d'ailleurs. Je veux tout savoir. Tout.
Si ça a raté, vous pouvez nous le dire aussi. Tu voulais réagir, Anthony, ou pas, Sophie Taïda?
Je fais pas vraiment ça. Je suis pas giga proche de ma famille en général, mais nos parents nous ont, donc j'ai une grande sœur et un petit frère, et nos parents nous ont toujours traités comme des mini-adultes, donc on avait le droit de s'exprimer, de s'opposer, de leur rentrer dedans aussi, à table, c'était hyper, pas encouragé, mais en tout cas c'était très bien accueilli, donc j'ai toujours été comme ça, et ma mère, elle nous a toujours parlé presque d'égal à égal, donc c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé assez admirable, et je me rendais compte que lorsque j'allais chez des amis et que je les voyais interagir avec leurs parents avec une forme de déférence qui m'étonnait énormément. Mais maintenant que j'ai quitté leur toit, ça m'arrive assez rarement, ouais, de me retrouver seul à seul avec eux, et enfin avec ma mère ou avec mon père. Et quand ça m'arrive, c'est très plaisant, mais en fait, je pense qu'on ne serait pas amis dans la vraie vie, donc c'est comme ça.
Oui, mais... bah oui, après c'est des personnes qui ne sont pas forcément des gens qu'on côtoierait effectivement dans la vraie, ouais, vie, mais on a tous vécu commun, qui fait que quoi.
Mais je les connais bien, ils me connaissent bien aussi, on a des rapports cordiaux, chaleureux, agréables. Mais ouais, ma mère, je ne la vois pas nécessairement, enfin si, je la vois comme ma mère bien sûr, mais je lui parle vraiment comme je parlerais à une pote, et
ouais, ouais,
vice versa.
Tu lui parles d'adulte à adulte, quoi.
Oui, et je ne lui parle pas comme... mon tuteur légal qui a autorité sur moi en permanence. Donc c'est assez chouette. Mais oui, Mathis et Aïda, vous me donnez aussi envie de faire ça potentiellement. Même si, comme toi, Mimi, ça me terrifie, rien que d'y penser.
Ah, j'étais là. Bon, je suis vraiment la seule que ça fait super bien.
Non, mais vraiment, énormément. Après, il y a un truc que je fais souvent. Mon père, il vit en Martinique et donc je vais souvent le voir. Enfin non, c'est pas vrai. Je vais le voir parfois. Et quand j'y vais, en fait, je ramène une pote souvent. Et en fait, on fait des excursions... avec ma pote et mon père, ou juste mon père et moi, ou... et c'est assez chouette parce que c'est un contexte qui n'est pas celui de la famille, littéralement, mais donc qui me permet de voir mon père sous un autre jour. Ou...
ouais, c'est cool.
Ouais, et c'est assez marrant, genre on va le voir zouker au restaurant, de manière assez improbable.
Je viens d'imaginer pour prononcer la phrase, on va voir mon père zouker, mon père étant un Alsacien taiseux qui n'a pas le rythme dans la peau du tout et qui, je pense, n'a jamais dansé de sa vie.
À combien d'abonnements Twitch on voit Bernard Zouker en live?
1 million finalement de sub Twitch, parce que Bernard il a pas envie de faire des trucs, hein. Pas devant des caméras. Eh bien merci Mathis pour cette discussion très intéressante. Merci Anthony,
souci.
Merci Aïda.
Je réalise que c'est un truc que je fais souvent avec mes tantes, en revanche. Parce que j'ai 2 tantes qui m'adorent et qui n'ont pas d'enfants, et donc je dis pas que c'est forcément lié.
Non, mais c'est mon goal dans la vie, c'est d'être une de tes tantes. C'est d'être la tante qui n'a pas d'enfants, qui du coup a souvent un peu plus de thunes aussi, et qui est un peu chill et qui est un peu ta tante pote, tu vois. C'est mon game dans la vie.
Bah, c'est mon game d'être le gay uncle, le gunkle de mes neveux.
Le gunkle.
Et justement, quand je vois la relation hyper riche que j'ai avec mes tantes, je me dis, mais en fait, c'est trop cool. Et la seule... enfin, l'éducation, la transmission, ça se passe pas forcément de parents à enfants. Il y a plein d'autres formes de mentoring qui sont agréables, enfin de patronage, je sais même pas comment appeler ça, mais oui, de transmission en tout cas. Et ouais, je trouve ça hyper sain et constructif et enrichissant. Et mes tantes, je les adore, quoi. Donc, c'est vraiment mes potes. Je leur parle de mes mecs, elles me parlent des leurs.
C'est trop cool. J'avais ça avec une tante. Ah, c'est trop cool. J'avais ça avec une tante et en fait, on s'est complètement perdu de vue au moment du Covid parce qu'elle a tourné anti-vax sévère.
Ah, un autre.
Et ouais,
un autre
compliqué aussi à gérer. Ouais.
Compliqué aussi.
Ouais.
Ce ne sera pas un kiff, je pense. Les gens
ça n'est pas un kiff.
Proche tourne anti-vax. Aïda, what is your kiff?
Mon kiff est beaucoup moins sérieux que tout ce qu'on vient de se dire, mais parle un petit peu de relations affectives aussi. C'est plus qu'un kiff, c'est une obsession. Une obsession, je le dis dans le micro avec
c'est
un air présidentiel.
Elle l'a redit en détachant les syllabes.
Ma passion, Philippe Poutou. Non, ce ne sera pas Philippe Poutou.
J'ai influencé son kiff.
Je viens de changer de kiff parce que t'as dit son nom. Non, c'est... Ah, maintenant j'ai envie de parler de Philippe Poutou.
Mais non.
Ok, tu reviendras parler de Philippe Poutou. En plus, là, on arrive dans la présidentielle. C'est sûr, il va encore y avoir un débat où Philippe Poutou, il va éclater tout le monde. Et ben, tu viendras dans LMK et tu diras voilà, ode à Philippe Poutou.
Je décrirai la tenue de Philippe Poutou. Non, mon kiff dans la vraie vie, c'est une série Netflix qui n'est pas exactement une série. En fait, c'est un truc qui est à mi-chemin entre la télé-réalité et la fiction.
Comme Hollywood Girls.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Non, pas comme Hollywood Girls.
La fiction réalité où c'est juste des gens qui savent pas jouer dans des scénarios qui sont pas, où les dialogues sont pas écrits.
Et ça ressemble à de la télé-réalité, mais on sait pas comment et pourquoi.
C'est en tout cas très moche, visuellement.
Non, c'est beaucoup plus beau visuellement que Hollywood Girls. C'est un truc qui s'appelle The Future Diary sur Netflix. En fait... Ces derniers temps, je suis tombée dans une espèce de spirale de télé-réalité sur Netflix, mais de télé-réalité un peu contemplative. Et en fait, mon algorithme me propose vachement de trucs qui sont tournés en Corée du Sud ou au Japon. Et là, c'est une télé-réalité japonaise qui appartient à TBS, je crois, Tokyo Broadcasting quelque chose. Et en fait, le concept, c'est hallucinant.
Vas-y, fais-nous rêver.
C'est un dating show. Sauf que c'est pas un dating show où t'as plein de gens et il faut choisir ton âme sœur et tout. C'est un dating show où il y a deux personnes qui ne se connaissent pas, qui ont été sélectionnées par la prod, qui se rencontrent. Et en fait, c'est indescriptible. J'espère que je vais pas avoir l'air du mec avec des fils sur un tableau et des gros cernes là, en essayant d'expliquer ce truc. En gros, deux personnes qui se connaissent pas, qui se rencontrent. Et en fait, ils ont un scénario à suivre. Pour reproduire une histoire d'amour. Genre, on leur file chaque jour un carnet dans lequel il y a une page et ils doivent faire ce qui est écrit sur la page.
C'est trop romantique.
Mais oui. Et en
attends,
fait,
mais tu vis ta propre fanfic. Genre, tu vis ta fanfic avec quelqu'un et tu vis dedans.
Et c'est trop mignon. Et du coup, donc, ça commence avec deux personnes qui s'appellent Mai et Takuto, qui sont extrêmement mimes. C'est les meilleures personnes à suivre. Et en fait, chaque jour, enfin non, pas chaque jour parce que c'est sur un mois, ils se voient que le week-end, je crois. Donc, à chaque fois qu'ils se voient, ils vont dans un endroit faire, évidemment, un date trop beau. En plus, ils se baladent pas mal au Japon, donc tu vois plein de paysages trop beaux. Tu vois la plage, tu vois les montagnes, tu vois la neige et tout, c'est trop bien. Et en fait, ils ont des activités prédéfinies par l'espèce de diary, là, chaque jour. Et ils savent pas... genre, chaque personne ne sait pas ce qui est écrit dans le journal de l'autre, tu vois. Donc, en fait, toute l'idée... c'est de regarder des gens tomber amoureux en leur donnant un script, en leur disant « bah voilà, dis ça ». Et en fait, tu vois si à la fin, ça marche ou pas et s'ils vont tomber amoureux ou pas, tu vois.
T'as un exemple de trucs qu'ils doivent faire ou dire ou... Enfin, qu'est-ce qu'il y a écrit sur leur petit carnet, quoi.
En gros, c'est des... Enfin, il y a un côté un peu expérience.
Expérience sociale.
Ouais, un peu, parce que tu sais que les choses qu'on leur demande de faire, c'est des choses qui sont vouées à leur prouver qu'ils peuvent avoir confiance l'un en l'autre, par exemple, tu vois. Ou pour les mettre dans des situations où ils vont s'impressionner mutuellement. Je sais pas, t'as un truc où ils ont un date sur un bateau, donc ils sont là, ah trop mime, c'est tout, ils se prennent en photo sur le bateau, machin. Et d'un coup, on demande au gars dont le métier c'est d'être chef cuisinier, de faire la bouffe pour les gens du bateau. Et du coup, lui il est là, ah ok, vas-y, je fais la bouffe, tu vois.
Ouais, ok.
Et donc la meuf elle est là, oh my god, c'est trop stylé quand il fait cuire des steaks, tu vois.
Oh non, est-ce qu'il y a un docteur dans l'assemblée? Vous avez un problème médical?
Exactement.
Oui, docteur, incroyable coïncidence.
Il se passe exactement ça sur le paquebot. Et donc le mec fait des. Je sais plus ce qu'il cuisine, mais effectivement, c'est très impressionnant et ça a l'air très bon. Donc la meuf est là, ah waouh, trop stylé, tu vois. Il y a des moments où ils doivent se séparer et en fait, il y en a un qui doit attendre l'autre à un arrêt de bus. Il doit revenir avant une certaine heure et du coup, c'est un espèce de jeu de confiance, tu vois. La personne est là, non, moi je crois qu'il va revenir avant 19h et tout. Parce qu'on leur dit, s'il revient pas avant 19h.
Tu vas pas être un connard, tu reviens pas.
Non, mais parfois, il se passe... Enfin, je ne veux spoiler personne.
Oh là là, d'accord.
Mais voilà, l'autre est là, je crois au fait qu'il va arriver avant 19h, parce qu'on leur dit, bah, en fait, s'il ne revient pas avant 19h, l'aventure, elle s'arrête et vous ne vous reverrez jamais. Et en fait, tout l'enjeu derrière, c'est aussi qu'ils ont des contrats avec la prod qui sont qu'ils n'ont pas le droit de se contacter en dehors du tournage. Ils n'ont pas le numéro de téléphone de l'un et l'autre. Ils habitent l'un ou l'autre d'un bout à l'autre du Japon, quoi. Donc en fait, les seuls moments où ils interagissent, c'est les moments où ils sont filmés avec le script de ce qu'ils doivent faire.
Je deviendrai Mabulitax. I love love. Je suis tellement romantique, je serais là, c'est l'homme de ma vie. Mais si en plus je peux le voir que le week-end et pas le contacter en tout temps, ça veut dire que j'ai une semaine de fanfic personnelle dans ma tête qui devient réelle. Et après je vois et je suis là, on a passé la semaine ensemble dans ma tête, c'est top. Ce qui c'est après, très dangereux pour les cœurs d'artichaut cette histoire. Hein.
Bah ouais, ça doit jamais marcher à terme cette histoire. Enfin, quand tu te retrouves dans la part de la personne et qu'elle pue le matin. Enfin,
mais
tu
non,
vois,
les gens ils font pas semblant, c'est juste que le scénario les met en valeur comme dans une comédie romantique où les trucs arrivent au bon endroit.
C'est
bon
ça.
Moment, tu vois.
Et donc il y a des symboles de partout.
Juste dans la vraie vie, quand t'es en croisière, personne dit ah bah est-ce que un random gars du bateau veut faire la bouffe pour tout le monde, et là ça arrive et du coup il peut
ouais,
se mettre
vois.
En valeur.
Okay.
En fait c'est ça. Vas-y,
ça vient aussi d'un pays où il y a énormément de célibat, non?
Oui.
Ouais.
Oui.
Et donc c'est d'autant plus crucial ce genre de programme.
Bah écoute, en tout cas c'est un programme qui marche très très bien au Japon. Là ce qui passe sur Netflix c'est un reboot d'un truc qui a duré pendant 20 ans, genre des années 80 aux années 2000. Et donc, pendant 20 ans, ça a été un truc qui marchait trop bien au Japon, qui a été un petit peu exporté à l'international, je crois, et qui maintenant est sous nos yeux sur Netflix. Et c'est trop romantique, c'est vraiment une comédie romantique. Et je déteste les comédies romantiques, sachez-le, je regarde pas ça. Les trois quarts du temps, je suis là, oh,
ça
bref.
Ça m'étonne zéro. T'es trop vénère pour les comédies romantiques.
Moi, j'aime
c'est
que...
genre hétéro-toxique aussi, les comédies romantiques.
Mais bien sûr.
Non, je te voyais trop regarder, tu vois.
Ah, pas du tout. Moi, quand je m'ennuie, je regarde Dernier Train pour Busan, je regarde pas des comédies romantiques.
Il y a des battes et des zombies, il y a quoi? Et un TGV, voilà.
Ah, des trains,
profitons-en
des zombies.
Pour faire un clin d'œil au dernier épisode du Seul Avis qui compte. Si vous n'avez pas encore écouté, c'est le podcast de Kalindi. Le dernier épisode est consacré aux mensonges des rencontres amoureuses dans les films et dans les
tout
séries.
Et il est trop
et
bien.
Et c'est hilarant. Voilà.
Elle a des opinions.
Et je dis pas ça parce que je l'ai réalisé. Voilà.
Enfin, si. Très bien
un peu.
Fermez les yeux. Vous êtes dans un bar huppé de l'Upper East Side à New York. Vous portez une robe en soie flamboyante de chez Valentino. Vos cheveux coulent sur vos épaules. Vous n'avez jamais été aussi splendide. Au loin, un inconnu qui vous fait les yeux doux. Parce que vous êtes une lionne, qui n'avait peur de rien, vous déambulez vers lui et lui offrez un old fashion. Vous riez, il rit. Il s'appelle Candace, mais il vous plaît quand même. C'est sans doute parce que vous êtes déjà bourré. Qu'à cela ne tienne, vous recommandez des cosmopolitains. C'est chic, le cosmopolitain. Et puis vous partagez tous les deux une assiette de sushi à 10 000 dollars. Là, vous proposez à Candace d'écourter la soirée et de foncer dans vous, chez vous.
Redis le titre du truc.
The Future Diary. Donc le journal du futur.
C'est le carnet de ta relation future.
Et en fait, le deal, c'est que donc ils se rencontrent dès le début, mais on leur dit par contre attention, à la fin de l'émission, vous pourrez plus jamais vous revoir.
Mais quoi?
Vous pourrez plus jamais vous revoir. Il y a pas.
Qu'est-ce qui va les empêcher? Attends, mais c'est quoi le concept? C'est pas trouver l'amour du coup le concept? C'est tomber amoureux et après vous serez triste?
Bah apparemment.
Mais quoi?
Écoutez, regardez, parce qu'il y a énormément de plot twists dans
je
ce truc.
Je comprends pourquoi t'as dit c'est compliqué à expliquer, je vais ressembler au même de Charlie Day, là.
Il y a énormément de plot twists, sachez-le.
C'est un épisode par couple?
Non, c'est...
C'est entremêlé?
Non, c'est vraiment... Enfin, chaque saison suit que deux personnes que tu vois tous les week-ends où ils passent du temps ensemble, tu vois, dans plein d'endroits différents au Japon.
Ah,
et donc là, la saison qui est sur Netflix, c'est terminé. Je crois que le dernier épisode est sorti cette semaine. Puisqu'il est sorti mardi et que mardi, je me suis couchée à 2h du matin pour le regarder.
Ça se tient.
Et donc, tu as peut-être 8 épisodes comme ça où tu les suis week-end après week-end qui passent ensemble et tout. Et normalement, voilà, à la fin, ils peuvent plus se voir. La dernière page du journal, c'est genre, ils s'embrassent devant 99 tournesols et ils disent au revoir pour ne plus jamais se revoir.
Mais c'est quoi leur bleu vie, c'est...
Et tout le monde chiale et tout.
Mais c'est horrible. Attends, ok, je vais regarder juste pour piger ce truc de... Mais en fait... Tu sors de l'émission, je dis pas dans les années 80, mais binote, tu vois, mais là t'as Instagram, tu vas en DM, tu te dis bon bah meuf, l'émission elle est finie, tu viens chez moi ou je viens chez toi. Enfin,
mais
je sais
pas, c'est cette croyance-là qui nous fait tenir pendant tous les épisodes, Mimi, parce qu'en fait si tu les regardes en te disant qu'ils se reverront plus jamais et que Mais ça va se finir comme ça, tu peux pas, tu pleures tout le temps, tu vois, donc t'es obligé de te dire non mais c'est bon, ils vont se retrouver sur Instagram, non mais ils ont forcément vu une adresse de l'endroit où ils bossaient et tout. Et en fait, la prod leur file des petits bracelets en leur disant bah voilà, si vous avez chacun ce petit bracelet sur le poignet, ça veut dire que vous pensez l'un à l'autre et que ça ira toujours bien malgré la distance et
mais
tout.
Non, mais attends, bref, mais c'est vraiment ça finit mal comme s'ils étaient morts alors qu'ils sont pas du tout morts, ils peuvent juste se revoir. Tu vas sur Reddit, tu dis bonjour, je suis la personne du jeu, j'aimerais trouver l'autre personne du jeu, voici ma photo, et l'autre personne dit bah c'est moi, super, et ben je viens chez toi, voilà.
Mais
c'est
peut-être signent des contrats et que s'ils se revoient après le jeu, ils vont devoir payer un million à la prod, tu vois.
Mais t'as des contrats qui disent genre t'as pas le droit de dire ça ou ça, t'as des NDA, mais je sais pas si tu peux avoir un contrat qui dit vous n'avez pas le droit. Si tu peux empêcher des gens d'être dans la même pièce, tu vois, bah genre ouais, des ordonnances d'éloignement.
Obligatoire par Tokyo Broadcasting Studio.
Moi je crois, j'espère.
Tout pour le drama.
Le oh là là, j'ai envie d'en faire un truc avec un couple maudit qui du coup nique le système du jeu et tout machin, bref.
Et finissent en prison.
Pour se retrouver après et tout.
Écoutez, yes. Sachez que en tout cas, il y a énormément de surprises pour quelque chose qui est très scripté. que c'est super mimes. Vraiment, les deux personnes qu'ils ont choisies pour cette émission, c'est les deux personnes les plus cool du monde. Ils ont tous les deux une énergie un peu. Je sais pas comment dire ça sans que ça ait l'air pas sympa, alors que dans ma tête c'est super sympa. Vous voyez les gens qui font un peu une énergie de chien?
Oui.
Genre alors ils sont super enthousiastes et tout.
Et tout, oui, les gens, les ouais, bons voilà, labradors. Bah, c'est des gens trop contents, je les adore.
Mais Mathis, arrête de m'insulter tout le temps. Mais
on a déjà parlé de ça. Les yeux de berger allemand.
Mais ça, c'est mon patronus, c'est pas mon énergie.
Non, mais ça t'emmerde, c'est marrant.
Non, mais pour confirmer que c'est pas une insulte, je dis souvent de mon mec, et il est très d'accord, que c'est un petit labrador, tu vois. Il est
ouais, grave.
Tout, il adore les gens. C'est comme le chien dans la haut qui dit écureuil tout le temps, dès qu'il se passe un truc qui brille, on perd sa concentration. Enfin, il y a un côté c'est Golden Retriever sympa ouais, dans la personne.
Il y a une énergie cool d'être trop enthousiaste, d'avoir trop envie d'aller à la découverte de ce qu'il y a autour de toi, et un peu de petits mouvements d'excitation, quoi. Donc eux, ils ont un peu tous les deux cette énergie. Ils sont trop choux. Sans trop vous spoiler non plus, c'est assez ouf de se prendre au jeu de regarder des gens qui tombent amoureux à cause d'un truc scripté. Genre, en vrai, c'est un peu zinzin comme manière de penser le truc. Mmh. Et en fait, tu l'oublies un peu au bout d'un moment que tout est scripté et t'es juste là, ah, c'est trop mignon! Parce qu'en fait, ils sont naturels dans leur manière d'interpréter ce que le script leur dit de faire. Bref, voilà, je suis obsédée par ça. Je pense que je vais re-regarder toute la saison 1 ce week-end.
Ah ouais?
Parce que c'était
ah ouais,
trop bien.
Et c'est fini mardi et tu vas tout regarder ce week-end. En effet, c'est,
même
ce n'est
que
pas
c'est
qu'un chou, c'est une way of life.
Parce qu'il faut que j'arrête d'être émo et de regarder Dernier Train pour Busan. Dès que j'ai du temps libre, ça me rend weird. Donc maintenant, je regarde des trucs chou.
À la tendresse au lieu des tripes de zombies.
Maintenant, j'aime les rom-com. Mais que quand elles sont scriptées.
New Year, New Me.
C'était la saison combien?
Bah, c'était la première saison depuis le reboot.
C'est okay, la première saison du reboot. Ok, oui, trop bien.
Voilà, c'était mon kiff. Si vous cherchez de la mignonnerie, allez-y, ça va être trop bien.
Ça donne super envie. Merci Aïda.
Merci à vous.
Anthony, quel est ton kiff sur lequel tu as pris de frénétiques notes au début de cet épisode qui m'a donné
torturé
un petit peu la curiosité parce que mes notes personnellement font trois lignes de bloc-notes, donc bon, pas grand-chose quoi.
Bah, au départ, j'allais juste parler de kiffer les movie nights avec mon colocataire tranquillement. Et voilà, c'était tout à fait paisible comme kiff.
Il n'y avait pas de notes à prendre.
Puis,
Mathis
m'a soufflé l'idée de parler de ma passion pour FKA Twigs. Et,
on précise que c'est
et
ton tweet name quand même hein, en ce moment.
Oui, c'est mon tweet name depuis deux semaines.
Et c'est une thèse qui arrive. Bienvenue dans Laisse-moi kiffer. La parole est à Anthony Vincent.
Je vais être très bref. Donc FKA Twigs, c'est une artiste britannique que j'adore infiniment. Donc elle a 34 ans. Elle a sorti un premier album en 2014 et vous connaissiez peut-être son premier clip qui s'appelait Two Weeks où en fait c'est un long travelling arrière où on la voit sur une espèce de trône et ça recule et en fait elle est à sa droite et à sa gauche il y a des mini ailes en train de danser et ça recule encore, il y a encore plus de mini ailes et ça recule encore et on finit par voir qu'elle est que sur le sol en fait c'est au-dessus d'une espèce d'océan énorme et il y a une espèce de déesse et c'est un maxi aile sous l'eau.
C'est trop bien. I know it hurts. You know I'd quench that thirst. I can just say you're lonely.
Enfin, en fait, c'est une artiste hyper créative dans sa direction musicale, mais aussi artistique dans sa danse, parce que elle a été formée au ballet et au chant lyrique dès sa toute petite enfance. Et ensuite, elle a été élevée par une mère, justement, qui est danseuse et gymnaste, et un père qui était un beau-père, pardon, qui était fan de jazz, et son père lui-même était musicien aussi, son père biologique.
Je tiens à dire que tu viens de dire tout ça sans regarder tes notes. Parce qu'il faudrait pas que les gens croient que tu es en train de lire Wikipédia.
Non, mais parce qu'en fait,
il a pris des notes, mais il en a pas besoin. Il coco les bails.
Il peut pas lire, il a les étoiles dans les yeux, regardez-le.
Alors, son beau-père, pas son père.
Non, mais qu'il adore infiniment. Et en gros, elle est dans une école d'art dramatique hyper connue au Royaume-Uni, qui a formé Adele, Amy Winehouse et d'autres talents du Royaume-Uni. Et vous la connaissiez aussi peut-être parce qu'elle était parmi les figurantes et chorégraphes de Jessie J. Et donc dans le clip Do It Like a Dude, on voit beaucoup FKA Twigs. Bref, donc en fait, elle a d'abord été connue.
Elle est sortie avec Robert Pattinson à un moment.
Oui.
C'était un couple assez médiatisé. Ouais. Non pas pour la réduire avec quel homme elle est sortie, bien sûr, mais moi qui ne suis nulle en musique, comme chacun le sait, FKA Twigs, je suis là. Ah, elle faisait partie d'un couple people à un moment dont tout le monde parlait. Je crois que c'était Robert Pattinson.
C'est ça. En gros, elle a d'abord percé... En fait, c'est assez fou parce que donc elle était danseuse à l'arrière d'autres pop stars, tout en continuant à avoir une vie dans les clubs underground, à être danseuse, à participer à la ballroom scene. Et voilà, elle était hyper underground. Un jour, elle a tapé dans l'œil d'un photographe qui lui a demandé de poser pour ID, qui est une revue mode britannique hyper importante. Et ça l'a un peu lancée. Donc là, elle a commencé à sortir des mixtapes, des EP et tout. Et ensuite, son premier album avec Two Weeks, qui était hyper connu. Et du coup, c'était une meuf qui avait des looks assez fous aussi, en plus d'un son hyper particulier. Donc vraiment, son premier album est un bijou, et chaque clip est une pépite esthétique assez dingue. Et ensuite, ce que j'allais dire, c'est que oui, en fait, elle a été vachement médiatisée aussi par sa relation avec Robert Pattinson, qui lui a fait subir énormément de racisme. Mais avant même ça, parce que de toute façon, en fait, donc son père est biologique à FKA Twigs, est jamaïcain, et sa mère, c'est une britannique blanche, et du coup, elle est métisse. Elle a un physique assez particulier aussi. Elle a une toute petite bouche de poupée en forme de cœur, avec les dents du bonheur. Et donc, elle a un visage très, très, très marquant, avec des yeux très ronds, et c'est aussi pour ça qu'elle a fait la couverture de Heidi, de Heidi. J'ai dit Days tout à l'heure ou pas?
Non, t'as dit Heidi, c'est bon.
C'était tight. Toujours pas de notes, pas besoin, ok?
Et de Heidi, du coup, ça avait vraiment frappé dans l'œil de plein de gens, et voilà. Et donc, après ce premier album et sa relation avec Robert Pattinson, elle a aussi sorti entre-temps un EP qui s'appelait Melissa, qui était assez fou aussi, qui était plus expérimental encore. Et voilà, donc je le recommande, mais qui est peut-être plus inaccessible. Et ensuite, en fait, ce dont elle parle dans son album qui est sorti en 2019, donc LP1, c'était en 2014, ensuite elle a sorti Melissa en 2015, après elle a sorti Magdalene en 2019, et ça c'est un album qui m'a fracassé.
Il est incroyable.
Et genre, c'est un bijou, sonore, bref, écoutez cet album. Il est absolument phénoménal, je pense que c'est l'une des plus belles choses que j'ai écoutées de ma vie. C'est une expérience... plus qu'esthétique, c'est une expérience de vie, enfin bref.
Avec le clip de Cellophane qui me déchire le cœur.
Le premier single qui est sorti de cet album, c'est Cellophane, effectivement, où en fait c'est toute une métaphore filée, on peut l'interpréter comme on veut, mais ce qu'elle raconte dans la chanson, c'est, d'après les paroles, c'est en fait, ils ne veulent nous voir, ils veulent pas nous voir ensemble, ils nous voient seulement sous de la cellophane, donc en fait ça pourrait évoquer des magazines People sous leur couverture de cellophane. Et en fait, c'est une image de papier glacé qu'elle a voulu casser et qu'elle a déchirée. Et donc, dans le clip de Cellophane, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que FKA Twigs, c'est une artiste donc, extrêmement talentueuse qui maîtrise plein de styles de danse différents et en fait, qui adore découvrir de nouvelles compétences. Et donc, pour autour de Melissa, elle avait beaucoup montré qu'elle était capable de danser plein de danses différentes. Et avec Magdalene, elle a appris le pole dance, mais à un niveau extrême parce qu'elle connaissait aussi plein d'autres genres de danse. Et donc elle mélange toutes ses compétences à chaque nouveau clip. Enfin, donc Cellophane, tu la vois faire du pole dance du paradis en enfer. Enfin, c'est assez dingue.
T'as tellement les yeux qui pétillent, c'est trop chou. On parlait d'amour avant. Franchement, le vrai amour, c'est ça. C'est Anthony qui parle de FKA Twigs.
Mais la musique en plus est sublime parce que c'est une personne qui a une formation de chanteuse lyrique, mais qui aussi fait des sons très pop.
T'as dit Adele, Amy Winehouse et tout. On est sur des meufs qui ont du coffre, quoi. C'est de la grosse belle voix généralement.
Mais en fait, elle a un filet de voix assez doux. En tout cas, elle l'utilise de manière assez douce et elle a une voix de tête assez dingue. Enfin, c'est une soprane. Très, très, très talentueuse, en plus d'être une performeuse malade. Enfin, vraiment, la regarder en live, c'est aussi une expérience, parce qu'en fait, elle a un sens de la direction artistique assez inédit, où chacune de ses apparitions, qui sont rares, parce qu'elle est assez niche, hein, comme artiste, hélas, ou pas, parce que c'est ce qui lui permet aussi d'aller aussi loin dans ses pratiques artistiques, c'est que, du coup, elle va pas te faire juste « Ah, je me pose devant un micro et je chante avec des danseurs en arrière-fond » ou une scénographie hyper qui envoie du lourd parce qu'en fait je peux pas compenser par mes talents. Non, la meuf, elle chante,
tu
elle
danse.
Tu
penses à des gens en disant ça?
Pff, je pense aux trois quarts des artistes aujourd'hui, mais bref.
On ne citera pas de nom, après on aura des DM.
Non mais la go, elle te fait du pole dance en même temps qu'elle chante et ouais. Elle te fait chialer et danser à la fois. Et pour Magdalene, elle a aussi appris le wushu, qui est un art martial japonais avec une épée qui est relativement souple. Donc
mais elle a combien d'heures dans sa journée en termes de... On dirait Hermione quand elle a son retourneur de temps pour apprendre tous les trucs.
Bah, elle a
donc elle a appris la pole dance en plus des 128 hautes danses qu'elle maîtrise évidemment à un niveau expert, ainsi qu'un art martial. Je suis là, mais oh, quand le temps? Je veux bien que c'est son métier, mais quand même beaucoup de temps.
Du coup, elle a fait sortir un clip justement où tu la vois pratiquer le wushu, qui est assez dingue. C'est un mini court-métrage trop trop beau. Et aussi, ce que j'allais dire, c'est que juste après Magdalene, quand elle a sorti le gros de la promo de Magdalene, après ça, c'est relativement concomitant, mais en fait, elle a révélé qu'elle a été victime d'une relation hyper abusive avec l'acteur Shia LaBeouf. Donc, elle a porté plainte contre lui pour violence psychologique, physique et violence sexuelle. Et en fait, c'est vraiment une artiste qui a... Enfin, je veux pas glamouriser la résilience, ça, c'est un truc que font beaucoup trop les médias, mais c'est une artiste qui a vraiment genre sublimé sa peine en art d'une manière extraordinaire, vraiment. Et là, elle vient de sortir un troisième album, enfin, qui est pas tant un album, mais qu'elle veut volontairement appeler une mixtape, qui s'appelle Capri Songs. Et cette mixtape, là, elle a transformé la peine en art jovial. Parce qu'en fait, jusque-là, on la connaissait plutôt pour des chansons un peu dark, parfois sexy, hyper niche et tout machin. Et là, Capri Songs, c'est hyper dansant, c'est hyper funky. Parce qu'en fait, pendant la pandémie, elle était ultra, ultra down. Et elle le raconte un petit peu dans l'album vers la fin. Parce qu'en fait, c'est un album qui est très parlé aussi. Donc il y a plein de chansons hyper dansantes et il y a plein d'interludes où en fait, elle a enregistré ses amis en note vocale lors de conversations téléphoniques parce qu'elle elle avait très mal. Donc elle appelait tout le temps ses potes pour lui remonter le moral et tout machin. Et ses potes sont archi drôles. Et donc quand t'écoutes l'album, t'es pas seul. Genre t'écoutes ses potes qui lui donnent des conseils amoureux, qui lui disent « Oh ouais, la vie c'est cool. Ah mais quand la vie te donne des citrons, bah capture dans l'essence. C'est mieux que de refaire de la limonade. » Et donc ils donnent plein de conseils aussi sur l'amour propre. Et c'est vraiment hyper enthousiasmant. Ça te regorge en optimisme et en amour pour la vie, quoi. En plus de vouloir danser et de pleurer un petit peu aussi, parfois, mais vraiment sur deux chansons, quoi. Et voilà, et c'est un album qui est coproduit par Arca, avec qui elle travaille souvent, et par El Grincho, qui est un producteur qui travaille beaucoup avec Björk et Luz and the Gakuza. Et l'album est vraiment, vraiment super. Et là, les clips commencent à sortir, et la go a appris le tir à l'arc. Donc,
mais
voilà.
Stop, mais ça va, Katniss, là, c'est bon. Elle fait tous les trucs, incroyable.
Et donc voilà, c'est l'artiste la plus stylée de notre époque. Parfois, je crois que je le tweet à peu près genre deux fois par semaine. Genre, je n'arrive pas à croire que je vis dans le même espace-temps que FK Twigs, genre... Franchement, c'est un miracle. Enfin, bref, genre, regardez-la, écoutez-la, admirez-la. Enfin, et j'espère que ça vous plaira. Peut-être pas obligé, évidemment. Mais je pense que son talent, ses talents, sont indéniables. Genre, la go, c'est l'être le plus polymathique que je connais. Genre, elle sait tout faire. Tout. Enfin, en tout cas, elle est capable de tout apprendre. Ou presque. Voilà, j'arrête. Et j'ai même pas dit le quart, du tiers, de la moitié de ce que je voulais dire. Mais juste... Mais vraiment, et si je voulais vous dire... Vous pouvez aussi, en plus d'écouter ses albums et ses mixtapes et ses EP, vous pouvez aussi la regarder. Y a plein d'extraits de performances live sur YouTube où tu la vois sur scène pendant des concerts où elle danse comme une malade, mais aussi sur des plateaux télé où elle fait des performances, mais mon Dieu. Et donc voilà, je pense à 2-3 performances, mais peut-être qu'on les mettra en lien de la description
sans problème,
de l'épisode.
Avec grand plaisir.
Parce que sinon, je vais jamais m'arrêter de parler. Mais juste, dernier truc, c'est un podcast qui s'appelle... comment ça s'appelle ? Je crois que ça s'appelle Song Exploder. Oui, c'est ça. Song Exploder. C'est un podcast qui décrypte la construction d'une œuvre musicale, d'une chanson en particulier.
C'est en anglais ou en français ?
C'est en anglais.
Okay.
C'est assez accessible parce que FK Twigs parle vraiment tout doucement, avec une toute petite voix et assez lentement.
Très bel accent britannique du sud de l'Angleterre, magnifique.
Personnellement, mais bref. Et en gros... Dedans, elle décrypte la construction de Mirrored Heart, qui est ma chanson préférée de l'album Magdalene. Et en fait, les paroles sont sublimissimes, et la construction de l'instru aussi. Et là, elle la décortique, elle explique pourquoi est-ce qu'elle a fait tel son. Parce qu'en fait, elle a un style musical hyper particulier, genre qui est très très inédit, enfin qui est très expérimental. Et voilà, enfin c'est vraiment pas de la pop mainstream, et je dis pas ça avec un jugement de valeur, vraiment c'est l'ago, elle est... Ouais, genre, c'est de l'art contemporain, enfin, je sais pas quoi dire.
Waouh, écoute, tu l'avances si bien, ça a l'air d'être la personne la plus fascinante de 2022.
Bah, ça l'est, et ça s'écrit la lettre F comme Francis, K comme kangourou, A comme...
Anthony Vincent.
Et Twix comme une brindille, T-W-I-G-S, donc voilà... J'aime toutes ses chansons, j'aime tout ce qu'elle fait, je l'adore. It's all for the game, it's all for the lovers
trying to chase a rush guy. Bah, la grande question, c'est à quand l'interview fleuve de FKA Twigs par Anthony Vincent sur Mademoiselle, écoute.
Bah franchement...
It can happen to you.
Maybe, mais je pense qu'il ne faut pas toucher aux idoles, la dorure en reste aux mains, comme dirait Flaubert. C'est vraiment les rarissimes interviews que j'ai faites de personnes que j'admirais trop. Ça, c'est
Flaubert
passé.
Dans LMK.
Ah yes.
C'est incroyable.
Incroyable. Alors, je suis tellement inculte que t'as dit Flaubert, j'ai d'abord pensé au gars de Golden Moustache avant de penser à Gustave Flaubert, l'autre.
Comme le dit Flaubert.
Fais le Floodcast quand même
Moustache.
Maintenant, parce que Golden Moustache, c'est fini depuis 2014, donc Flaubert du Floodcast, quand même, pour être un peu plus moderne.
Mais je pense que si je la vois, je meurs. Enfin.
Ok, enfin, maybe bref. Interview Fleuve, co-créé par Anthony Vincent. Peut-être pas que faite par toi, parce qu'il ne faudrait pas saturer d'émotions.
Interview posthume.
Et en plus, tu vas arriver en retard parce que tu te seras changé 8 fois avant d'aller interviewer FK.
Mais je pense qu'elle comprendrait.
Tu t'habillerais comment pour interviewer FK?
Je peux pas répondre à
cette
question.
Ce podcast est déjà long, Mathis. On va pas dire tu t'habillerais comment pour rencontrer la femme de ta vie. Après, c'est long.
Franchement, je pourrais pas répondre à cette question. Mais récemment, en plus, on m'a demandé, je crois que c'est dans Friends, du coup, apparemment, que ça se fait. C'est la liste des 5 personnes avec qui tu pourrais coucher.
Ah oui, alors Fanny, Soraya, mes deux meilleures amies qui écoutent ce podcast et connaissent Friends par cœur vont me juger car je suis pas sûre de ce que j'avance. C'est pas le truc de la liste des cheats, genre ouais. Quand t'es même en couple exclusif,
ouais.
T'as tes comme des cheat meals, mais ouais. En gros t'as tes
5 jokers.
C'est ceux qui voilà, c'est les jokers quoi. Et comme je sais pas si moi je dis oui, je suis en couple exclusif, mais si jamais j'ai l'opportunité de coucher avec Brad Pitt, j'ai dit à mon gars, je peux coucher avec Brad Pitt parce que c'est Brad Pitt et tu m'en voudras pas. C'est ce genre de truc. Quoi.
Quel mauvais choix.
C'était un exemple comme ça. J'ai pas dit Brad Pitt, j'ai dit par exemple. Moi je suis en couple libre, de toute façon je m'en fous, je peux coucher avec qui je veux.
Donc avec Brad Pitt, finalement.
Qui je veux, après qui veut aussi, c'est ça aide.
Le consentement, c'est important. Mais je sais plus où je voulais en venir avec cette information. Donc,
que tu l'as mis sur ta cheatlist FK et Twix.
Non, même pas, parce qu'en fait, même si je pouvais, je pense que j'arriverais pas. Genre,
Non, je pense pour que moi, quand t'admires autant humain. Quelqu'un, t'as pas envie de coucher avec.
Non,
quoi. Clairement. T'as pas envie non plus de, je sais pas, de l'avoir. Au lit avec la gueule de bois, enfin, t'as tout un truc de...
Ou même faire pipi, genre.
Ne sois pas trop humaine. Après, ça fait mal à l'aise.
Et puis FK Twigs, elle a vraiment particulièrement ce truc de... Elle a pas l'air humaine, tu vois. Dans tout ce qu'elle fait, elle a un côté très...
Oui, oui bah, comme
moi, j'ai l'impression
Bjork
c'est...
Et tout, y a
autre chose.
Un...
On bah, peut pas être faite de la même façon, tu vois.
Tout à fait. Il y a un truc de transhumanisme presque dans les... Dans la façon dont elle va se représenter dans les clips et tout. Puis,
après,
Et puis dans une forme de perfection aussi, dans tout
ouais,
ce qu'elle fait,
sûr.
Tu vois, qui est hyper...
Avec quand même de la douleur et tout, pardon Anthony, mais typiquement Magdalene, il me semble qu'elle l'a fait juste après avoir eu un gros problème de santé, non il y a eu...
Oui, elle en parle d'ailleurs dans l'une de ses chansons.
Ouais.
En fait, en gros, elle a eu des espèces d'ovaires polykystiques qui se sont très fortement aggravées et elle a continué à s'entraîner, danser énormément malgré sa maladie qui donc est arrivée à un point où il y avait moyen qu'elle perde la vie. Et ça l'a laissé dans une longue convalescence extrêmement douloureuse. Et voilà, en fait, elle dit apple cherries, parce qu'en fait, c'est la taille des tumeurs qu'elle avait près de son utérus.
Donc
la taille la taille d'une
de
pomme et de cerise.
Ah ouais.
Et voilà,
c'est gros déjà, pomme, c'est très gros par rapport à la taille d'un ovaire, par exemple. C'est bon.
Ouais. Non, mais du coup, elle a vraiment, vraiment douillé sa race, quoi.
Ouais, c'est ça.
Mais je pense que c'est important aussi de pas glamouriser trop, je me répète, la souffrance,
non,
la douleur.
Sûr.
Et aussi, en fait, elle est humaine, elle a des talents extraordinaires, mais elle est humaine et je pense
qu'il
ne faut pas
la gueule de bois
trop.
Au fond du lit. Et oui. Elle a bien le droit.
Et elle en parlait avec ses potes dans sa mixtape après Song, ce qui est vraiment très fun. Et justement, ça la réhumanise énormément. Mmh. Et en fait, elle nous rappelle qu'elle est sur Terre, quoi. Même si elle a l'air d'être une autre planète, de venir d'une autre planète.
Alright. Eh bien, merci pour ce portrait de FKA Twigs, l'alien la
C'était
plus humaine
très beau.
De la Terre. C'est parti pour mon kiff. Mon kiff est un livre, cette fois-ci, car je l'ai fini et je peux enfin en parler,
oh.
Même si je l'avais déjà lu. C'est un livre, comme ça arrive régulièrement dans Laisse-moi kiffer, qui m'a été recommandé par Fibre Tigre, qui m'avait notamment recommandé Vita Nostra, un bouquin dont je vous avais parlé, qui m'avait un peu révolutionné ma perception de comment on peut écrire sur apprendre la magie, qui est quelque chose qui malheureusement n'existe pas, paraît-il. et qui était très cool, donc j'en avais parlé dans Laisse-moi kiffer, plein de gens l'avaient lu. J'arrive avec une nouvelle reco de Fibre Tigre, mais attention, celle-ci est piégée. C'est un bouquin de fantasy, évidemment, car j'adore la fantasy, mais je suis très difficile, donc j'ai tendance à pas trop écouter les gens, à part Fibre Tigre, parce qu'il a quand même beaucoup de goût, et il écrit de la très bonne fantasy, puisque bien sûr, Fibre Tigre écrit Game of Roll Mademoiselle, une fois par mois sur Twitch. Donc, un bouquin dont le titre officiel, c'est une saga de fantasy qui s'appelle Chronique du Tueur de Roi, Kingskiller Chronicle en anglais, mais un peu comme Game of Thrones qui normalement s'appelle le Song of Ice and Fire, mais que tout le monde appelle Game of Thrones, moi je l'appelle plutôt, comme plein de gens, Le Nom du Vent, puisque c'est le nom du tome 1, c'est le titre du tome 1, Le Nom du Vent, qui a propulsé du coup cette saga très très vite au top de la popularité des sagas de fantasy. C'est le contender probablement le plus sérieux à Game of Thrones en termes de succès qu'il y a eu depuis un petit moment, mais depuis pas si longtemps, puisque ça a commencé à apparaître en 2007 seulement. Donc c'est vachement plus récent que Game of Thrones, qui pour rappel date des années 90 en termes de parution, et donc d'écriture, le gars il était déjà dessus dans les années 80. C'est un bouquin écrit par un auteur, j'allais dire américain, oui il est américain je pense, qui s'appelle Patrick Rothfuss, qui est donc une saga de fantasy que j'ai beaucoup de mal à vendre aux gens, parce que c'est très dur d'expliquer pourquoi c'est bien, je trouve, le nom, enfin, je trouve que c'est très dur d'expliquer pourquoi c'est bien, même si, comme on est 1 000 milliards à l'avoir lu et adoré, voilà, vous pouvez avoir confiance, globalement, c'est bien. Parce que le problème, c'est que quand tu racontes juste l'histoire, ça a l'air d'être la plus bateau des histoires de fantasy, où t'as un mec qui est un peu l'élu, qui est fort en tout, qui est orphelin, et qui réussit tout ce qu'il entreprend, et du coup, t'es là, bah, c'est juste hyper chiant, et ça n'a pas le bon goût d'être un peu, je sais pas, pour les gamins comme Harry Potter. Parce que l'histoire, c'est celle d'un héros qui s'appelle Kvothe, c'est compliqué à prononcer, ça s'écrit K-V-O-T-H-E, donc faites-le mieux que moi, mais okay. Voilà, il s'appelle Kvothe, c'est compliqué. Et en fait, ça commence, c'est un mec qui tient une auberge, donc déjà ça commence dans une auberge, moi je suis là, yes. Je crois que la première phrase c'est « Le silence était lourd à l'auberge de la pierre levée », j'ai fait « ça part, ok, ça part, on adore ». Donc il tient une auberge et on se rend compte que c'est pas du tout juste un aubergiste, qu'avant ça, il a vécu une vie incroyable et que l'auberge, c'est un peu sa retraite et qu'il n'est pas très heureux là-dedans, qu'il s'est un peu rangé des voitures, un peu genre John Wick qui a arrêté d'être assassin. Et il y a un chroniqueur, donc un genre de scribe, qui vient recueillir son histoire. Et du coup, toute la saga du tueur de roi, c'est l'histoire de Kvothe avant qu'il finisse dans son auberge, où il a un autre nom et où personne ne sait qui il est. Mais tout le monde sait qui est Kvothe, parce que Kvothe avait accompli des exploits de ouf dans les années précédentes, mais personne n'a calculé que c'était lui, parce que c'est une auberge médiévale, ils n'ont pas Google Images pour reconnaître les gens. Et du coup, tout le livre, c'est lui qui te raconte comment il est devenu la légende Kvothe, c'est quoi la vérité derrière la légende, et comment il finit dans cette auberge à avoir globalement une vie de merde très solitaire, où il a un seul compagnon, mais on comprend que... Enfin, il s'est rangé, quoi, il s'est retiré du monde. Et... c'est tellement bien, c'est vraiment... C'est la deuxième fois que je le lis, la première fois j'étais là. C'est incroyable ce qui se passe, j'aime trop, et j'avais hâte, c'était à 3 ans, et je m'étais dit j'ai hâte de l'avoir lu il y a assez longtemps pour l'avoir assez oublié pour le relire, parce que la deuxième fois va être encore mieux. Et là je l'ai relu, donc je vous en parle enfin dans Laisse-moi kiffer. Et en fait, donc l'histoire de Kvothe, c'est que quand il était enfant dans ce monde-là, qui est donc un monde... médiéval fantasy, j'ai envie de dire un peu traditionnel, avec un peu des empires, des machins, des tribus, des cultures un peu différentes. Il y a de la magie, mais un peu oubliée, qui a disparu, un peu comme dans Game of Thrones, où il n'y a plus tellement de magie au final quand l'histoire commence. Donc il y avait des créatures, un peu des fées et tout, mais tout le monde part du principe que c'est des légendes, ça n'existe plus. Et il y a une forme de magie, il y a différentes formes de magie qui existent, notamment une qui s'appelle le sympathisme, qui est en gros un transfert d'énergie. Donc c'est présenté un peu plus comme de la physique impossible que comme de la magie-magie. Ou par exemple, tu vas lier une corde que tu tiens dans ta main à une autre corde qui est par terre, et quand tu soulèves celle dans ta main, ça va soulever celle par terre. Mais c'est un skill, quoi, c'est une compétence, c'est pas juste « ouh, tu sais faire ça maintenant ». Bref, donc voilà, c'est un monde médiéval fantastique avec un peu de magie, pas trop, un peu de surnaturel, pas trop, et sinon bah, des gens qui galèrent à être heureux comme d'habitude. Et donc Voss, il commence sa vie, il fait partie d'une troupe qui existe dans ce monde, qui s'appelle les Edemaru, qui sont des genres de bohémiens, qui sont un peuple nomade, qui vivent dans des roulottes, qui font beaucoup de musique, et qui sont les plus grands musiciens du monde et tout. Donc il vit sa best life, le gars, il commence à apprendre, évidemment c'est un enfant hyper intelligent, hyper smart pour son âge et tout, qui a l'air de vraiment de comprendre les choses hyper vite et tout, parce qu'il est un peu exceptionnel. Il commence à apprendre donc le sympathisme, cette forme de magie, au contact d'un gars qui reste avec sa troupe pendant un moment et tout. Tout va bien, et là, mon gars, horrible. Sa troupe entière, elle se fait massacrer, mais massacrax, horrible, pendant que lui, il est parti pisser, genre, ses parents, ils lui disent « va chercher des herbes pour le dîner », parce qu'ils sont en week-end. Du coup, il va chercher des herbes pour le dîner, et il revient, et c'est genre le feu, le sang, tout le monde est éventré, machin, il est là, quoi. Et il y a des êtres qui sont là, qui sont clairement les personnes qui ont tué tous ses proches, et qui lui parle. Et au moment où ils vont pour le tuer, il y a un événement perturbateur et il arrive à s'enfuir. Et ces êtres, ça a l'air d'être ce qu'il appelait les Chandrians, qui sont les pires créatures, c'est les pires démons, quoi. C'est genre Lucifer et tous ses bras droits, qui sont bien sûr censés n'avoir jamais existé ou avoir disparu selon à qui tu demandes, auxquels personne ne croit. Et du coup, il est là. Mais en fait, ils ont tué mes parents. Enfin, je les ai vus. Donc, qu'est-ce que quid ? Et donc, la quête de sa vie, la quête de la vie de Kvoss, qui raconte, ça va toujours être sous-tendu par en apprendre le plus possible sur les Chandrians pour, à terme, essayer de les retrouver, pour, à terme, essayer de venger mes parents. Mais c'est pas comme si c'était, genre, son leitmotiv. C'est juste, quand il sait pas quoi faire, il dit, bah, je vais suivre ce truc qui est le seul truc que j'ai. Parce que, donc, sa troupe se fait décimer, il est orphelin, il vit dans la forêt, il a plein d'aventures. Et tout le nom du vent et les chroniques du tueur de roi, c'est ses aventures. Et pourquoi c'est trop bien ? Déjà parce que c'est très bien écrit, franchement la plume est très cool. Je vous conseille d'aller juste lire l'intro du tome 1, je l'avais posté en story sur Instagram, je vais peut-être l'épingler comme ça, vous l'aurez. C'est genre 4 pages et j'étais là, ça c'est la meilleure intro, enfin bam, tu peux pas ne pas continuer le livre après, c'est très joliment écrit. Et c'est trop bien parce que l'auteur fait un truc que j'aime beaucoup et que Stephen King fait beaucoup, qui est aussi un de mes auteurs préférés, c'est qu'il te spoil la fin pour que tu te dises comment on en est arrivé là. Par exemple, ça s'appelle Chronique du tueur de roi. Donc on sait que Kvoss, à un moment, il va tuer un roi. Mais on sait pas qui c'est. C'est juste, c'est un spoiler. C'est à un moment, il va tuer un roi. Et peut-être que ça sera un truc du type, il a tué un roi, mais c'était pas vraiment un roi. Peut-être que c'est l'homme qu'on a appelé le roi des fous qui l'a tué, on n'en sait rien. Peut-être qu'il va, je sais pas, tuer son père qui, en fait, était pas mort et qui, en fait, était roi. Ça peut être plein de choses. Mais du coup, il y a plein de fois où l'auteur distille des trucs comme c'est Kvoss qui raconte sa propre histoire. Et que parfois, il y a des interludes où on revient dans l'auberge, il y a des événements perturbateurs dans ce monde-là aussi. Enfin, dans cette temporalité-là aussi. Bah, il lâche plein d'indices et tout, et du coup, t'as envie de continuer pour savoir comment on en arrive là, d'un petit orphelin dans la forêt à une légende vivante, mais où personne sait trop qu'il est là physiquement. Et voilà, il est tueur de roi, tueur de poète, il a un milliard de noms différents, donc t'es là, okay, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un milliard de rebondissements, puisque c'est un vrai voyage initiatique, donc il va dans plein de villes et plein de types de lieux différents, ce qui fait des types d'histoires différentes, donc il y a un moment où il est un peu mendiant, va-nu-pied, escroc dans une grande ville un peu crado. Il y a un moment où il va dans une université pour apprendre notamment le sympathisme, qui est un peu école de magie, voilà, un peu classico. Il y a un truc où il va, avec un peuple, apprendre un art martial mystérieux. Il y a un moment où il rencontre une fée. Enfin, c'est vraiment, il se passe plein de trucs, donc on s'ennuie jamais. Les personnages secondaires sont cool. Il y a un personnage féminin. Il y en a plusieurs, mais il y en a un qui est la meuf du truc, qui est la meuf dont il est amoureux. Et elle, on sait pas trop si elle est amoureuse de lui ou pas, mais en tout cas, elle peut pas être avec lui. C'est un personnage pas inintéressant. Je pense qu'on n'a pas trop de problèmes. J'ai l'impression, en termes de représentation des personnages féminins, elles sont peut-être un peu trop décrites sur leur physique par rapport aux mecs, mais ça c'est souvent le cas quand c'est un homme hétéro qui écrit des femmes, il s'attarde un petit peu plus sur la taille de ses seins que... Il dit pas si Kvoss il a un bon cul par exemple, c'est pas une précision qu'on a, mais on sait quelques personnages féminins qui ont un bon cul. Donc il a une histoire d'amour torturée avec une meuf qui s'appelle Dena, qui est une genre de, on sait pas trop, mais une genre d'escorte. En gros, elle cherche des protecteurs riches et puissants parce qu'elle a pas de ressources et on sent qu'il y a une forme de... au moins d'échanges sensuels, peut-être pas sexuels. Du coup, bah, elle peut pas traîner avec lui parce que lui, il a pas d'argent, parce que c'est un orphelin. Et c'est une histoire tragique, du coup, d'amour impossible, où des fois, elle disparaît pendant des mois, fuis-moi, je te suis, machin. Et en fait, c'est tout ça. C'est pour ça, je pense que c'est très bien. Le nom du vent, c'est qu'en vrai, c'est une tragédie. On sait que ça va mal finir, parce qu'on sait qu'à la fin, il est tout seul dans son auberge, et on a plein d'indices qui nous montrent que la temporalité du présent, où il est dans son auberge, le monde dans lequel il vit ne va pas mieux. Il y a des attaques de trucs qui ne devraient pas attaquer ce coin-là. Il y a la guerre. Des fois, il y a des clients qui viennent à l'auberge et qui sont « Oh là là, j'ai encore eu des rumeurs d'un truc qui s'est passé. » Donc, on sait que quoi qu'il ait essayé d'accomplir Kvoss, il n'a pas amélioré l'état du monde. Voire même, peut-être, c'est sa faute si le monde a l'air de plus en plus cassé. Et il y a plein aussi d'indices dans cette temporalité. Genre, il a un coffre dans sa chambre. On sait que c'est lui qui l'a fabriqué. On sait qu'il veut ce qu'il y a dedans, mais on sait aussi qu'il peut pas l'ouvrir. Et on est là, bah, c'est toi qui l'as fait, frater, pourquoi tu peux pas l'ouvrir ? T'as la clé, tu l'as fabriqué. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Évidemment, c'est la grande question. Donc en fait, on sait que c'est une tragédie, et c'est très triste, parce que tous les moments où on se dit, ah, bah là, il est à l'école de magie, il est heureux, il a des potes, il a un peu de sous, il a sa meuf, bah à chaque fois, on sait, on est là, ouais, mais ça va pas finir bien, il va pas devenir super magicien et se mettre avec la meuf et tout, parce qu'à la fin, il finit à l'auberge. Donc, il y a vraiment un côté, regarder ce personnage... fantastique, raconter sa propre histoire pour la détacher de la légende, assumer ce qu'il a fait de bien et de pas bien, tout en sachant que c'est ça qui casse un peu le côté mythe du héros à qui tout réussit, c'est que bah, à la fin, on sait pas s'il a réussi sa quête, mais en tout cas, ça va pas mieux, quoi, et lui, il va pas bien. Donc c'est trop bien. Et le seul problème avec le nom du vent, je vous avais dit que c'était une reco piégée de Fibre Tigre, c'est que tout comme Game of Thrones, ce n'est pas encore fini. Ça fait 10 ans que l'auteur travaille sur le tome 3, On n'a pas de date de sortie, hein, globalement. Il me semble que son éditrice a confié publiquement récemment qu'elle n'a pas lu la moindre ligne du tome 3, à part le prologue qui a été diffusé publiquement. Donc on est sur une forme de frustration. Je ne sais pas comment finit Le Nom du Vent. Et personne ne sait comment finit Le Nom du Vent.
Oh,
mais je
Dieu.
Sais que très bientôt, parce que ça fait le 8e projet avorté dont on parle, il y aura sûrement une série, un film, Amazon Prime, machin, fera une série Le Nom du Vent, en se disant le gars va finir par finir son bouquin avant qu'on ait fini la série. Spoiler, pas toujours. Avec un magnifique rouquin dans le rôle titre parce que Gvoss est roux et qu'il a l'air très joli. Et vous pourrez dire, grâce à Laisse-moi kiffer à Mimi, j'ai déjà lu l'histoire, je sais déjà que c'est cool. Et comme ça, vous pourrez être la petite conne qui fait chier tout le monde en disant « Mais attends, tu connais pas Le Nom du Vent ?» Enfin, attends que t'arrives au moment à l'université, comme ça tout le monde vous détestera. C'est vraiment très bien, c'est très joli. Lisez Le Nom du Vent. Du coup, il y a deux tomes parus, il y a Le Nom du Vent et je sais plus le 2, bah, vous trouverez quoi. Et on attend le 3 qui s'appelle « Doors of Stone », les portes de pierre. voilà, to be détermine en termes de date de sortie, mais un jour peut-être. Mais en attendant, c'est quand même très bien à lire. Faut juste pas avoir peur d'être un peu frustrée et d'être patiente pour un jour savoir la fin.
Ça m'avait donné trop envie quand on parlait. Et maintenant que je sais que le truc, on l'attend depuis 10 ans, je suis là, bah non.
C'est non,
je le lirai quand le tome 3 sera sorti.
Là, non, les gens, ils vont pas lire.
Tu nous as parlé de gens qui tombent amoureux et qui se revoient jamais, genre ça va.
Oui, mais au moins, tu sais ce qui se passe à la fin, tu vois.
Non, mais je
comprends pas. T'es pas là à dire, il y a quoi dans la malle toutes les nuits.
Bien sûr, bien sûr.
Si on me dit, cette série, les deux premières saisons, elles sont top, après ça a été annulé, je dis, bah, je vais pas regarder, du coup, je vais juste avoir le seum si ça a été annulé. Avec les livres, quand c'est Fibrotique qui conseille, je me fais avoir, je suis là. C'était bien quand même, mais peut-être que je m'auto-persuade que mon seum a un sens et que c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage.
Moi, je veux savoir ce qu'il y a dans la malle maintenant, là. Maintenant que t'en as parlé, je suis saoulée.
Ah non, et aussi. Quand même, pour être honnête avec tout le monde, évidemment, le fait que ce ne soit pas fini permet aux gens comme moi d'aller sur Reddit,
voilà.
De chercher King Killer Chronicle Theory, de faire Donne-moi les meilleurs et de passer tout son dimanche après-midi à lire des théories sur notamment qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Probablement son nom, on en est à là, mais il faut lire le livre pour comprendre ce que ça veut dire. Ah
ah! Ok, j'ai un peu envie quand même.
Allez, c'est la fin de cet épisode de Laisse-moi kiffer qui est, ma foi, peu court. Mais c'est pas grave, on a bien parlé de blettes et de choses et d'autres. Merci, chère équipe, pour cet épisode.
Merci.
Je vous donne rendez-vous chaque jeudi dans vos oreilles pour écouter Laisse-moi kiffer. Je vous fais des gros bisous.
Bye bisous. Bye.
Bisous.
Bisous.
Comme quoi.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.